tout plaqué pour devenir DJ. Je vais faire ça maintenant, moi. DJ, je vais m'acheter un jet. Je vais passer ma vie entre Ibiza, mais les endroits hype. Alors, je les connais pas, les endroits hype, mais j'irai voir sur. Je demanderai à ChatGPT. ChatGPT, peux-tu me dire où sont les endroits hype pour que ma carrière de DJ décolle? Comment il va le monsieur en vacances? Salut mon sugar. Bon, en vacances, oui, c'est vrai. Focapa, on envoie un max de force à Focapa dans le chat, s'il vous plaît. On passe tous par là, c'est chaud. On a l'impression qu'elle va pas le faire et ça va le faire. Oui, vacances, mais stream. Je vous rappelle que j'ai pris mes vacances annuelles dans cette belle île de Corsica. Je suis arrivé samedi. Samedi, voilà. Et ça ne va pas nous empêcher de streamer tous les jours. Voilà. Salut Sarah. Oh, ça va aller. Non. Ça va aller, Sarah. Mets-toi en mode automatique. Hein, le taf, c'est. Tchouk, tchouk, tac, clac. Je suis pas sûr que j'aide beaucoup là avec mes conseils pourris. Jurassic World, c'est bien. Ok. Vacances, alors. Oui, Corse. Je me tâtais à mettre un drapeau corse au fond, là, ou quelque part, là. Ils sont en vente partout, ici, avec la tête de mort. Voilà. Mais après, je me suis dit, c'est pour dire aux gens, bon, voilà, je suis pas à Paris, quoi. Ça donne l'info. Sur une chaîne d'info, on est une chaîne d'info aussi, bon, on continue, heureusement. On va pas ajouter à l'anxiété de ce monde. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Après, ils ont dit oui, ça veut l'Étienne, militant d'indépendance corse, encore un nouveau tech politique, décidément, il ne s'est pas fermé sa gueule, tu vois. Je sais pas. Voilà, conférence de presse du FLNC, voilà, cette ambiance-là, exactement, Clamakin. On sait que tu es en fond vert, mais pas du tout. Non, pour le coup, je suis vraiment. Pourquoi il y a une grosse paille en plastique sur ton canapé? C'est moi qui l'ai gonflé hier soir. Je sais pas. Mon épouse a débarqué à l'apéritif avec ça. Elle m'a dit, tiens, faut que tu le gonfles. Avec une mini pompe à vélo comme ça. Bon, moi, je me suis bien musclé le bras droit. Voilà, ça, c'est une paille. C'est pour mettre dans la piscine. Mais comme il y a du vent là, aujourd'hui, il y a un coup de vent. Oula, ouais, il y a du vent. Comme il y a un coup de vent aujourd'hui, on a ramassé des trucs. Dont la paille. C'est pour boire. Non, en fait, c'est pour boire mon café. Pas mon café. C'est une belle paille. Dans quelques belles proportions, effectivement. Je suis d'accord. Un homme qui n'est pas sur la paille. Bah si, du coup. Enfin oui. Bon, après, peu importe. Tu dors dans le lit du haut ou du bas? Non, ça c'est mon studio ici. Je dors pas ici. C'est la chambre plus ici. C'est la chambre qui c'est mon studio. Petit café, grosse touillette. Ton café, ton whisky chaud, tu veux dire. On ne dit rien. T'es sur une table de camping? Non, oui, enfin une petite table, je suis bien. J'ai une grande table en fait qui s'élargit là, que j'ai mis au maximum. C'est ma table de mixage à gauche ici là. J'ai mon grand écran, j'ai ramené un grand écran. Oh, je vous ai pas raconté. Donc moi par bon, les setups en mouvement, en déplaçant, je connais. Hein, je le fais souvent. Ce qui est frustrant, c'est le petit écran. Comment ça, la chambre pour faire les bébés? Hein? Quoi? Non, non, c'est le setup. Non. C'est le studio ici. Et donc, en fait, ce qui est frustrant en setup à l'extérieur, c'est le petit écran additionnel. Bon, là, j'ai amené un grand écran, un bon gros Lenovo et tout, donc qui a fait le voyage avec moi. Voilà. Et évidemment, je ne l'ai pas mis dans les valises pour ne pas l'abîmer. Et donc, je l'avais avec moi dans mon petit sac Zilan. Là. Voilà, et je l'avais avec moi. Je me suis promené avec mon écran là, qui est arrivé à bon port, contrairement à mon petit boîtier d'acquisition et le gâteau qui a pris un coup de chaud. Grosse, ceux qui étaient là samedi le savent, gros moment de panique. Samedi, on arrive à 14-15 heures, je fonce au studio, j'installe le setup, tout fonctionne, le PC marche, la caméra marche, l'écran, miracle, a supporté le voyage, la table de mixage marche. Toute la connectique marche et je me rends compte qu'un des boîtiers d'acquisition, bonne nouvelle, regardez, ne fonctionne pas. Oui, El Gato. Et donc ça voulait dire que vous aviez le choix entre ou la caméra ou l'iPad pour la revue de presse. Pour le gaming, pas de problème. Panique, parce que moi, la promesse ici, c'est de vous faire un max de revues de presse. Notamment cet été, ça va faire de la revue de presse minimum 5 fois par semaine, quoi. Et donc, panique, je vais voir sur Amazon, sur les sites internet, comment les faire venir. Ça n'arrive pas avant 15 jours. Du coup, je dis à Joe, est-ce que tu peux passer au studio, m'envoyer, parce qu'on en a en spare, par la poste en express des trucs. La petite sœur de mon épouse arrive samedi prochain. Je me fais livrer des choses chez elle qu'elle amènera samedi. J'active plein de pistes, quoi. Voyez. Et attention, bonne nouvelle, succession de bonnes nouvelles, j'active la piste beau papa, le papa d'Hélène, Damien, celui qui m'a offert le joli tableau de Tintin, vous savez, à Paris, à la maison. Et il y a un délai ou pas là? Ah, il y a un délai de fou. Attends, j'ai mis un délai? Il y a au moins un délai de 10 secondes là. Ah non, j'ai pas de délai. Bon, on va dire que c'est la Corse. Ah, c'est marrant. Ah, il y a un délai de fou. Attends, je vais faire un test. Attends, il y a un délai de... Mais il y a un délai de combien là? C'est pas possible. Mais il y a un délai d'une heure. Mais il y a un délai d'au moins 30 secondes ou 40 secondes. Attendez, on va faire un test. Ça se trouve, c'est juste mon retour là. On va faire un test. Écrivez ce mot-clé dans le chat. Écrivez prout. Là, j'ai au moins une minute de délai. Prout, écrivez prout. Ah, ben non, il n'y a pas de délai. Ah non, c'est mon retour. Ok, j'ai eu peur. Non, c'est bon, il y a zéro délai. Il y a zéro délai. Alors, samedi soir, avec les copains avec qui on a joué à Marvel Rivals, j'avais même un ping hallucinant. On était 6 streamers. Et j'avais le deuxième meilleur ping après Rayou. Voilà. Non, non, y a un... okay. Et donc, je vous raconte. Donc, j'active la piste Beau Papa et je lui dis Beau Papa, il est dans le sud actuellement de la France et il se promène beaucoup. Et Hélène dit bah, peut-être qu'il peut passer dans une Fnac entre l'Espagne, la France, te trouver ça. Je dis ouais, c'est chaud quand même en vrai. Je vais sur les sites des Fnac. Les boîtiers, le gâteau, parfois ils en ont, mais ils en ont pas. Pourquoi as-tu fait le pétoman dans la vidéo de Gilsi? J'ai pas fait de vidéo avec Gilsi. J'ai fait la vidéo avec Joyka où il y a Gilsi, mais j'ai pas fait de vidéo avec Gilsi. Ou alors j'ai encore raté un truc. Et donc, je lui envoie les refs de deux boîtiers. Il m'appelle hier, il les a trouvés, les deux, dans deux Fnac différentes dans le sud. Donc il va aller dans deux Fnac différentes. Il les a commandés, il se les fait livrer là, et il me les ramène. Mercredi. Folie! Donc, je dis à Joe ce matin, bah, m'envoie rien, en fait, c'est bon, ça arrive là, mercredi. La petite sœur d'Hélène me rapporte samedi aussi. Et attendez, attendez, c'est pas tout. Comme je suis un peu maniaque et obsédé des trucs qui fonctionnent pas, je me couche samedi soir avec cette histoire de je peux pas faire de revue de presse lundi. Voilà, le goat, beau papa. Damien le goat. Voilà. Tu as pris une balle perdue dans la dernière vidéo de Chelsea? Ah merde, on va aller voir ça. Et donc le beau papa qui carie. Et puis donc samedi soir, je pense à ça quand même, je m'endors avec ça, je me dis, attendez, est-ce que je trouve une app qui fait mirror? Miroir pour que l'iPad soit sur le PC sans passer par une carte d'acquis. Est-ce que je trouve une vieille webcam pour la brancher directement sur le PC, auquel cas j'ai plus besoin de boîtier d'acquisition pour la caméra? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a plein de choses? Et en vrai, notamment les solutions miroir, iPad, PC là, c'est pas fou. Hein. Je suis allé voir sur Reddit, sur plein de trucs. C'est pas une dinguerie, c'est pas une dinguerie. Il y a des trucs, mais c'est pas foufou, c'est pas stable. Il y a 1000 apps, il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que les autres. Il y en a des gratuites, des payantes. Enfin, franchement. Ça a l'air easy comme ça et c'est pas foufou, voilà. Et donc je vois que c'est pas foufou. Genre, et puis et donc je me dis quand même c'est dommage quoi. Et donc je me lève très tôt le dimanche matin, hein, et je retourne au studio pour refaire des tests. Je vois qu'il y a un faux contact. Je vois qu'il y a un faux contact au niveau de ma petite la petite carte le boîtier Elgato Camlink 4K là. Et je vois qu'il y a vraiment un faux contact, il a pris un choc dans le voyage et tout. Et donc je vois qu'en bougeant dans le port USB, d'une certaine façon, Camlink, l'image est OK. Et je me dis, oui, mais je peux pas rester derrière le PC là comme ça pendant 3 heures, quoi. Et du coup, bah, j'ai posé un truc dessus. J'ai posé un truc dessus, derrière, là, qui fait un léger poids. Et l'image de la caméra que vous voyez, ici, c'est le résultat de cette petite manip. Et ça tient. Bim ! Bim ! Attendez, je vais vous faire une démonstration. OK. Là, je vais enlever le boîtier qui fait contrepoids. Bon, là, ça marche, c'est parce qu'il y a un poids qui reste. C'est ça que j'ai posé dessus. Mais dans un moment, ça va devenir tout violet, tout rose, tout vert. Je vais le remettre parce que ce serait dommage quand même. Voilà. Bon, voilà. Donc, il y a un truc qui tient, mais comme ça ne va pas tenir 107 ans, il y en a un autre qui arrive mercredi, un autre qui arrive samedi. Voilà. Let's go. Attends. J'en ai même commandé une sur Amazon que je t'ai annulée du coup, qui arrive le 16 juillet. J'ai pas besoin de celle qui arrive le 16 juillet. Ouais, en fait, j'en ai 6 qui arrivent. Avec ce que Joe allait m'envoyer, j'avais 8 boîtiers qui arrivaient. Sachant que j'en ai besoin que d'un. Ouais, je vais annuler ceux d'Amazon, ouais. Ça va me coûter une fortune, ce truc. Ouais, 8 boîtiers, ouais. Ouais, non, j'ai paniqué, j'ai dit pas pouvoir faire dans votre presse. Oui, c'est pour être sûr, ouais. Ah, je suis large, ouais. Ouais, non, mais je vais annuler ceux d'Amazon, je sais pas si c'est pas. De toute façon, ça sert toujours, ce truc-là, ces petits boîtiers, là, ça sert toujours. Là, ça fait beaucoup, là. Aucun changement, il devient fou. Oui, ça, c'est sûr. Ah bah sinon, l'accord, ça va bien, oui. Mélie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le 9e mois. Merci, JB8931, pour le 3e mois. Merci, Lucky 13, mon ami, pour le 6e mois. Et merci pour les bonnes vacances. Clairette de Dit, tu es là. 47 mois. Merci pour le 47e mois. Et mon Julot, merci pour le 46e mois, qui fait bien plaisir. 46 mois, bordel. Qui m'écrit, là? On sait rien, ça. Sam me dit, bonjour Samuel, bonjour tout le monde, je suis exactement pareil face à un dysfonctionnement, je bétonne et je me retrouve avec trop de solutions. Voilà. Bah non, mais je pouvais pas vous. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire de la revue de presse cet été, être au rendez-vous de l'actualité. Et je ne me voyais pas vous lâcher sur ce coup-là, quoi. Ah, l'expo Mamelouk. Il y a notre ami Sugar qui a visité l'expo Mamelouk. On a fait un direct, vous rappelez. Avec sa maman, c'était super, merci pour la reco. Non, l'expo est insane en vrai, ouais. Oui, j'avais arrêté le café, mais comme mon ventre va mieux, je m'en autorise un par jour. Exactement. Fuck it, Twitch. Merci, Funky Molly, pour le 10e mois. Le voyage que t'as préféré? Ah, j'ai bien aimé l'Australie quand j'étais jeune. Un petit en solo. Je suis parti en solo quand j'étais jeune journaliste à Canal+. C'est trois. Je sais pas, je sais plus combien je suis resté là. J'ai bien aimé l'Australie. L'Indonésie aussi. J'ai bien aimé l'Indonésie. Oh, l'Amérique latine. À une époque, j'ai fait Chili, Guatemala. Dans le même voyage. Hein. Chili, Guatemala, Honduras, Belize. Ça, j'ai bien aimé ça. Oui, on va parler de l'élimination d'Emilien des 12 coups de midi. Par contre, je trouve un article dans Le Parisien qui est pas foufou. Hein. Il y a un seul article ce matin et franchement, il est un peu classique, quoi. T'apprends rien. Enfin, je suis méchant, mais pas fou. La faune fait peur en Australie tout de même. Je te confirme qu'il y a des animaux bizarres, ouais. Oui, bon, on va pas commenter. Dis-le, vous savez qui, mais bon. Merci, Dodinou, pour le gentil message. Bienvenue, Bucks, dans cette première matinée. Le voyage solo, quand on pouvait être à l'aise, c'est banger, me dit Mario de Pas Métal. Le voyage solo, c'est la meilleure façon de voyager. C'est comme ça que vous allez au-devant des autres et que vous faites des rencontres. Je ne parle pas que d'amour. Hein. Des rencontres culturelles aussi. Quand tu voyages à deux ou plus, bah, vous restez souvent entre vous, quoi. Le voyage solo, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le pays, finalement. Tu peux changer de cap, de chemin à n'importe quel moment, improviser, rester un jour là, 2 jours si ça te plaît, c'est topissime. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Il y a des gens en Australie, c'est pas Mad Max. Non, ils ont reconstruit depuis. Ils ont reconstruit. Et si, Scholker, on est en Corse. Après, il faut savoir parler la langue du pays. Alors ça va, Baisse Gobelet. Ça va. Parce qu'en fait, l'Australien ressemble comme étonnamment à l'anglais, quoi. Il faut de la langue. Donc c'est allé. C'est allé pour ça. Mais solo, c'est chiant pour garder tes affaires quand tu vas aux toilettes. Ah bah non, parce que sac à dos, le petit sac à dos, tu l'emmènes aux toilettes. Verrou en Corse. Guns, tu veux pas l'adresse précise pour venir prendre un apéro, non? Il y a Guns qui dit Verrou en Corse. Hein? Et voilà, je dis ça, je lâche l'info comme ça, chill. Et puis à 18h, bonjour, c'est Guns, comment? C'est pas Guns and Ah si, c'est Guns and Roses, c'est Guns 1337 Roses, bonne ref. Et Guns qui dit, Toulou, c'est moi. C'est qui? Bah, c'est Guns 1337 Roses, c'est pour l'apéro. Va pas, non? Eh, je suis en vacances, moi. J'ai peur de m'ennuyer en voyage solo, mais jamais, Ipario, jamais, jamais. Jamais, c'est le meilleur voyage. L'Australie, ce pays où tout animal veut te tuer, il y a des pluies d'araignées. Non, mais ça, c'est dans les films. Les Anna. En vrai, non. Hein. En vrai, non. Salut Emma, bienvenue. Je vous laisse mon petit plaisir. Au collège, j'avais un prof de musique qui buvait deux cafés à chaque heure de cours. Ouais. Déjà, pour supporter la flûte à bec des élèves, je pense qu'il faut plus que du café, quoi. Merci Garros pour le gentil message. Ah non, Tom Thompson, le Macron à la Japan Expo, ça j'ai pas vu. Puis j'ai même pas vu l'article. Merci Jocelyn pour le Prime. C'est gentil. C'était batterie en quatrième? Batterie en quatrième? Batterie en quatrième? Attends, vous avez fait de la batterie en quatrième? Mais attends, mais le prof, il devait être. C'est terminé la flûte au collège? Ah bah heureusement pour les profs. T'as vu le stream Émilien Étoile? Sergius me dit ce soir, bah non, mais je sais que le Rayou, il est bien sur la filière Émilien. Hein. Bien, bien, bien. Bientôt, on saura plus si c'est la chaîne d'Étoile ou d'Émilien. Donc oui, c'est pas une énorme surprise, hein. Mais il était déjà avec lui il y a 2 jours, non? 3 jours, non? Merci Diabolomint. On passait un par un sur la batterie. Ah oh, le pauvre prof quand même. Black Sabbath, c'est terminé. Putain, Futex, mais rien ne va dans ce monde. Rien ne va dans ce monde. C'est terminé. Bonjour, je suis triste pour question pour champion. Y a-t-il un espoir? Mighty Rick, non. Non, non, bah non, sûrement pas, non. Je suis naturel optimiste, mais là, non. Hélas. Voilà, j'aurais tout fait, j'aurais tout donné. D'ailleurs, on va en reparler ce matin. Moi, bon, moi, dans la vie, la conférence de presse de France Télévisions, c'est le 8. C'est demain. J'avais envie de troller. Je ne pourrais pas vous raconter ça. Hier soir, je suis allé courir. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Je suis allé courir le long du littoral. Là, c'est ma petite sortie. Là, c'est marrant parce que chaque année, je suis en mode chill en ce moment. Je fais 1 heure. Et chaque année, je vais moins loin. Bah chaque année, c'est le même temps, mais je vais moins loin. Je sais pas pourquoi. Je pense que le sentier doit s'allonger ou ils ont dû faire ils ont dû rajouter des détours. C'est hyper bizarre. Je pars pour 1 heure et à une époque, j'allais au-delà de la colline. Là, j'allais derrière jusqu'à un tunnel où je pouvais pas rentrer. Là. Et puis, et je sais pas, ils doivent rajouter des petits virages parce que chaque année, là, je regardais ma montre parce que comme il faisait très chaud, je voulais faire gaffe quand même à pas prendre un coup de chaud. Et au bout d'une heure, je regarde. Ah bah il faut faire demi-tour, mais je dis mais d'habitude, je suis plus loin que ça. Bizarre. Ouais, ils ont dû faire des aménagements. Ouais. C'est bizarre. Par contre, je suis en train de me mettre en mode beau gosse là. Entre l'arrêt du sucre, j'ai un peu perdu du gras, la reprise du sport. Là, je me balade depuis. Là, je suis en t-shirt, faut pas déconner. Mais depuis que je suis arrivé, là, je me balade torse nu un peu dans le jardin. Je suis en mode. Vous avez vu le beau gosse là? Je suis en mode. Je sais pas quoi, je suis en mode bizarre. Je suis en mode. Je sais pas. Je saurais pas trop vous dire, mais je suis en mode ça. En mode Playboy, voilà. Ça fait pas peur aux enfants? Non, mais même hier, j'ai un ami d'enfance qui a une maison ici. C'est pour ça que je suis venu dans ce coin. Un ami qui vient d'Amérique du Sud, mais c'est un pote de quand on était tout petit. Depuis, on se connaît depuis la maternelle, c'est vraiment mes meilleurs amis. Et il a une maison dans le coin où je suis. C'est pour ça que je loue ici, en fait. C'est pour le retrouver chaque année avec son épouse et ses enfants qui sont trop cool. Et donc, hier, il vient dîner à la maison avec son frère, que j'adore aussi, et puis de la famille, enfin bref. Et ça arrive à 19h. Hey, je me suis occupé du barbecue. Et ouais, déjà. Et j'étais en mode, hop, short torse nu, le campeur, quoi, le campeur. Voilà, il manquait que le bob pastis 51 et les claquettes. Moi, j'avais les claquettes d'ailleurs. Voilà, tout le monde est venu habillé, puis moi j'étais là en mode vous avez vu, hein, je suis en mode beau gosse, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ouais. Le roi de la chipo, ouais. Et avec Hélène, on a ramené le. Donc il y a un barbecue ici, mais qui est dans le jardin, on l'a remonté là-haut, c'est plus simple. Et on est passé chez Leclerc, là, acheter. Il y a un très bon boucher, les brochettes, les chipots, les merguez, là. Voilà. Et. Ta femme est de quelle origine? Oh là là, elle est de loin, loin, Gasp, elle est loin, elle est de loin. Pff, au début, je comprenais rien de ce qu'elle me disait au début, l'espèce de. Je sais pas. Je comprenais rien. On a appris à ce. On communique par geste beaucoup avec mon épouse. Elle est de loin, elle est de Franche-Comté. Elle est de Franche-Comté, là, il parle un jargon là-bas. Il parle un. Comment dire, une espèce de patois, incompréhensible. 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 Avec un accent à couper au couteau, là, parfois, là. Notamment du côté du Haut-Doubs, du Jura, tu comprends rien. Et donc, je crois que, ouais. Mais on se comprend, on se comprend, on se comprend, on se fait beaucoup de signes. On parle beaucoup avec les mains. Et donc, hier soir, je suis assez fier de moi. Donc, bon, pendant une demi-heure, on essaie d'allumer le barbecue, parce qu'avec mon épouse, on n'est pas des champions de la cuisine. Finalement, on se rend compte que la bouteille de gaz n'était pas. Déjà, je constate que la bouteille de gaz était pleine, puisque quand je la bouge, il y a une inertie, je sens le liquide. Ok. Donc, apparemment, on a compris que juste le tuyau était mal enclenché. Je pense que les locataires de la maison avant, des Allemands, toujours leur faute, ça, de toute façon, toujours à foutre la merde, c'était pas servi du barbecue, sans doute. Et donc, hop, on clenche, on arrive à l'allumer, on nettoie la grille et tout. Voilà, et puis après, c'est parti. Je suis parti d'abord, chipot, merguez. Et là, je me rends compte que les merguez cuisent beaucoup plus vite. Un copain qui débarque, lui dit, tiens, c'est mystérieux, regarde. Il me dit, ah oui, mais les merguez sont plus grasses, donc c'est normal, ça fait plus. Okay. Donc, chipot merguez, paf, 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 je surveille, paf, paf, avec le truc qui se ferme là, paf, je retourne impeccable, ça part, allez, allez, chipot merguez. J'ai d'abord fait les saucisses parce que pour les enfants, ils aiment bien les saucisses. Après, les petites brochettes poulet citron, au citron, un peu mariné, tu vois la viande? Après, idem, mais curry, poulet curry. Et après, des petites brochettes de bœuf, belle viande et tout. C'est moi qui ai tout fait. Le roi du barbecue. Hier soir, le roi du barbecue. J'étais là, torse poil, avec ma grosse pince là. J'étais bien, hyper fier de moi. Ah oui, non, je, oui. Ah oui, pardon, les Allemands, j'avais pas fait gaffe, ouais, par rapport au barbecue. Ouais, j'avais pas pensé. Ok, je vois. Prends des saucisses de veau corse la prochaine fois. Ah bon, c'est bon ça? Ah oui, j'étais bien. Puis là, torse poil là. Puis à un moment, je suis allé dîner, j'ai quand même mis un t-shirt quand T'as flex ton niveau sur Valo dans la famille? Non, non, non. On m'a demandé juste si par rapport à l'arrêt de question pour un champion, j'allais faire des croisières maintenant. Tu sais, les croisières là, quand tu fais des conférences là, sur les bateaux avec les retraités là. Donc, ils sont un peu foutus de ma gueule en fait, je crois. Je lui dis, bah non, ça va, je suis un jeune, maintenant je suis sur Twitch et tout, c'est ça ma vie, quoi. Ah ouais, on pensait que t'allais faire des croisières là. Sympa. Sympa. Ça m'apprendra à inviter des amis. Merci Sigrid pour le 47e mois. En vrai, elle était bonne. Ouais, c'est vrai, c'était mignon. Hein? Non, je vais pas faire ça, non, non. Plutôt c'est simple, hein. Tout le temps que je passais à enregistrer des questions pour un champion, vous savez où on va le mettre? Vous savez où on va le mettre? On va le mettre où? Le premier qui répond dans ton cul, déjà, il se fait ban dev. Tout le temps qu'on passait à enregistrer des questions pour un champion, là, 7 jours par mois, là, des jours de semaine, hein, les jours vraiment intéressants, on va les mettre quoi? Non, pas sur web, pas sur Valo, sur Twitch, baby! De la revue de presse, en veux-tu, en voilà, du gaming, on va passer à, je sais pas, en moyenne, je stream 150 heures moi, par mois à peu près, hein? On va passer à 200 heures là. Allez, bim. Oui, revue de presse tous les jours. L'engagement là à la rentrée, c'est lundi, vendredi, revue de presse tous les jours. Ah bah ouais. Ça va streamer, hein. Ça va streamer. Merci Gérard. Pour le sixième mois. Je chante super bien, c'est pas ça. Ça va streamer. Incroyable. Je chante juste ou quoi? À quand le retour de l'hebdo, Étienne? Alors, quand je suis en vacances, moi, j'ai des idées, moi. Comme tous les gens, on a le cerveau un peu au repos. Et quand je cours, je pense à des trucs. J'ai eu une idée d'émission hier. T'entends quoi par arrêter le sucre? J'ai arrêté tous les sucres évitables facilement. Pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de gâteaux secs, pas de pâtisserie, pas de biscuits, pas de sucre dans le café, pas de dessert, pas de... Là, je mange pas de glace. Donc, je voulais trouver un moyen easy de perdre du poids sans manger moins. Donc, le reste du temps, je mange normal, quoi. Voilà, je mange même il y avait du sauciflard hier à l'apéro et tout, quoi. Si, un peu de fructose, je mange un peu de fruits. Et donc, j'ai arrêté le sucre. J'ai perdu 4 kilos. Et donc, j'ai eu une idée hier. Parce que l'hebdo Étienne, ouais, mais vous savez, l'hebdo Étienne, point d'exclamation, hebdo, HEBDO, vous savez. Compliqué, trouver quatre invités chaque semaine qui s'équilibrent à peu près, trouver les bons sujets d'actualité, te faire engueuler par Twitter parce que t'as oublié de parler de ça ou t'as parlé de ça, mais c'est pas comme ça qu'il fallait en parler, t'as encore rien compris, t'es vraiment un vieux débris. Donc, l'hebdo, ça va. Non, j'ai eu une autre idée. Un peu hebdo. D'ailleurs, une émission hebdo. Voilà, mais un peu différente. Ouais, Twitter, bref. La mensuelle Étienne, non, non. Tu sens bon aujourd'hui, Samuel, tu as un nouveau parfum? Le parfum de l'amour. Énergie, c'est le parfum de l'amour. C'est quoi du Wegovy? Moins 18 kilos en 8 mois? Wegovy, c'est un médicament? Parce que moi, je... Wegovy? Ah, mais c'est le truc... les injections, là. Ah ouais. Mais ça, c'est parce que tu avais besoin de perdre pour des raisons médicales. GG, hein. Je vois un moins 18 kilos, GG. Hein. Trop bien. Ouais, je sais que c'est très efficace ce truc-là. Alors donc, j'ai une idée d'émission. Hein, ici, ça leak tout le temps, hein. De toute façon, ça leak. Je sais pas ce que ça vaut comme idée. Ouais, c'est un médicament pour les diabétiques à l'origine. Ouais. Merci Gaspacho pour le cinquième mois. Faire une émission hebdo qui pourrait être le vendredi. Vous vous rappelez, dans l'hebdo Étienne, à la fin, on bouffait. Et on avait un petit chef qui nous faisait un petit peu cuisiner tout ça. Et vous vous rappelez, à un moment, Thierry Ardisson qui a inventé la télévision. Hein, parce que les gens ne se rendent pas compte que Thierry Ardisson a inventé la télé. Thierry, il dit souvent, ouais, moi, j'ai inventé plein de concepts d'émissions, on ne me reconnaît pas et tout. Enfin bref, il est un peu amer de ça. Et moi, je vais plus loin. Thierry Ardisson, il a inventé la télévision. Les gens avant Thierry Ardisson, il y avait de la télé, mais c'était pas de la télé. Les gens pensaient que c'était de la télé, mais c'était pas de la télé. Thierry, il a vraiment inventé la télé. Il a inventé un mec qui parle devant une caméra avec un micro ouvert, c'est Thierry. L'idée deux mecs autour d'une table qui parlent de trucs, c'est Thierry. C'est Thierry. Avant, il faisait des trucs qui ressemblaient, mais en vrai, c'est Thierry. Une émission où tu invites des stars en promo pour parler de leur actu. C'est Thierry Ardisson, ça. Personne ne l'avait fait avant. Hein. Ouais. Il a inventé la télévision. Avant Thierry, il n'y avait pas de caméra. C'était des espèces de. Ah, ça semble des caméras, mais ce n'était pas des caméras. Il a vraiment inventé la télé, quoi. Et donc, comme Thierry a tout inventé, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, mais je pensais à ce qu'il avait fait. Voilà. France Télé sera toujours sponsor de l'hebdo? Ah bah oui, sûrement. Ouais. Ah bah, on a très bonne relation avec France Télévision, donc je pense vraiment que là le soutien va couler à flot. Ouais. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas compris le second degré, je précise parce que je vois qu'il y a quand même une petite team premier degré qui est un tout petit peu présente. Quand je dis Thierry Ardisson a inventé la télé ou même inventé quoi que ce soit en télévision, c'était une vanne. VA2NE. Pas la ville de Vannes en Bretagne 56. Hein. C'était une blague en fait. C'était une vanne. Je précise parce qu'il y a des gens qui sont vraiment partis en premier degré. Ils disent, ah, tu crois vraiment? Non, il n'a rien inventé.
Rien inventé du tout.
Et donc, il avait quand même une émission, je me suis rappelé, qui était 51 rue du Faubourg Saint-Honoré, je sais pas quoi. Et il recevait des gens autour d'un petit gueuleton et tout, et ça discutait de tout. Et je me suis dit, papy, dans ton studio là, tu as une grande table. Tu connais les gens qui peuvent faire la cuisine. Hein? Éventuellement, je me mets au barbecue. Chipot, merguez, le bœuf, tu le veux comment rosé? Enfin, tu vois. T'invites. Ben oui, t'es retenu, pourquoi pas. T'invites 4 personnes chaque semaine. Et t'invites des gens un peu de mon monde à moi, on va dire. Peut-être médiatique, ou tu vois. Des Bruno Guillon, des gens comme ça, avec qui je m'entends bien, ou d'autres. Souvenons-nous de notre amie Valérie Damido qui venait régulièrement, tu vois. Et puis des streamers. Donc on est un peu tout sur ce mélange-là. Mais t'oublies l'actu. Hop, ça va, l'actu, je vous le fais tous les matins dans la revue de presse. T'es pas du tout sur. Voilà, vous avez vu Marine Le Pen, non? Non, en fait, il n'y a pas de. Y a pas de thème imposé. Ouais, voilà. C'est pas Blablacar, c'est Blabla. Voilà. Et on se met les 4-5 autour de la table. Et ça discute. Ouais. De tout, de rien. On appelle ça, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Tu vois, vendredi, fin de journée, quoi. Bon, ouais, invite tes modos, on peut inviter les modos, ouais. Ferez-moi les malins quand au détour d'un apéritif, on vous demandera votre avis sur le Proche-Orient, là. Ça va finir en soirée poker, cette soirée. Ah non, non, pas de poker. Non. Tu vois? Ça peut être pas mal, ça. Tu vois, comme ça, pas de prépa éditoriale en mode ah, faut parler de ça ou de ci, truc et tout. On invite des gens qu'on aime bien, on chill, on discute de l'actu de chacun, tu vois. Alors toi, qu'est-ce que tu streames en ce moment, toi? Alors c'est quoi ton spectacle? Puis de temps en temps, ça part sur l'actu. Oh, t'as vu, qu'il est con celui-là. Ah, oh, il a vraiment d'être. Tu vois? Je sais pas, on pourrait l'appeler, je sais pas comment. Non, la bouffe Étienne, c'est pas assez élégant. Non, une émission élégante. Une émission élégante, on n'est pas chez Ardisson. Et à la fin, vous finissez bourré, vous dites des dingueries. Bah oui, c'est ça, ouais. Hein? À la tienne, Étienne. L'émission, c'est à la tienne, Étienne. Hein? À la tienne, Étienne. Voilà. Comme le fait PA avec ses live cuisine, en même temps, il a inventé Twitch. Quoi, PA, il invite 4-5 personnes comme ça, et il parle de tout et de rien, ça? Voilà un truc, j'ai pensé à ça. Pensé à ça. Et attends, attends. Et par contre, au niveau ambiance, on bosse sur ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, je missionne quelqu'un pour nous créer vraiment une ambiance un peu élégante, un peu chill au niveau du décor, quoi. Ouais, les vieux sur le bord d'un banc, ouais, un petit peu, ouais. Ah, Étienne, Étienne. Ah, Étienne, Étienne. Hein? Voilà, c'est ma petite idée du moment là. Merci, comment je dis, Aon? Merci pour le deuxième mois. Merci Gaspacho pour le cinquième mois. Merci Iraxl pour le neuvième mois. Merci, merci encore Gérard. Au niveau de la prod, c'est. Bon, au niveau de la prod, c'est pas. Ah, tu veux. Ah, là, qu'est-ce que tu appelles la prod? Tu veux dire programmation ou production? Parce que la prod, ça, je sais faire avec Joe, c'est pas trop un problème. Programmation, ça, c'est moi qui m'en occupe, c'est inviter les gens, ça, je sais faire aussi. Donc, non. Je ne sais pas quelle est vraiment ta question, mais je réponds non, rien n'est compliqué. J'ai une autre idée, l'un des invités se propose à faire à manger. Ah non, mais c'est pas. Ah non, mais attendez, arrêtez, c'est pas une émission de cuisine, les gars. Ah non, non, c'est pas du tout. C'est pas la cuisine des mousquetaires, hein. C'est pas Maïté qui tape des anguilles sur la table ou qui tranche des homards en deux vivants. Hein. C'est pas ça, hein. C'est pas. Non, 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 c'est plutôt on est sur l'humain. Hein. On n'est pas sur la tartiflette. Plutôt sur les échanges, quoi. En vrai, on mange des cahuètes, ça ira bien, hein, ça va. Y a pas de budget. Hein. Même en bimensuel, ça passe bien, pas forcément en hebdo. T'as pas, toi, mon sugar. Non, on mange pas l'humain. Non, 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 on mange pas les humains. Non, non, c'est pas une émission cannibale. Non, 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 non. Oh, non, 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 pas une émission cannibale. C'est impossible à sponsoriser, ça. Une émission cannibale? C'est impossible à sponsoriser. Quel sponsor va mettre un billet sur une émission cannibale? Vous êtes fou, quoi, mais vous avez aucun sens des réalités économiques. Bonjour Orange, bonjour Bouygues Télécom, bonjour bonjour la Fnac, bonjour Boulanger, je sais pas. J'ai un petit concept d'émission cannibale. Il y a moyen de faire une sponsor? Non, non, ça passe pas les gars. Ça passe pas. Merci Naltael Volkiar pour le deuxième mois. Tu pourrais appeler Popcorn. Oh non, bien moi produit de Popcorn. Popcorn, ça coûtait une blinde. Non, 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 un truc artisanal, un truc à la maison, tranquillou. Ah, il y a Dr Strangelove qui me propose une émission. Ah, c'est pas mal ça. Mais de la solité différente, il faut les faire venir, les gars. T'as un budget voyage là. Et on est sur Twitch, on n'est pas à la télé. Bon, remarque, il y a plus de thunes en télé, donc c'est un argument qui vaut pas trop ça. Il faut des sous, hein. Ah, chez Samuel, ouais, ça fait genre le petit resto, ouais. C'est vrai que tu es le papy d'Elidia? Non. On le kiffe, non. Je suis l'arrière-grand-père. Le papy d'Elidia, c'est mon fils. C'est mon arrière-petite-fille. Non, non, c'est gentil. Vous me flattez au niveau de mon âge parce que je suis beau gosse. Je suis bien conservé. Je suis même un peu sexy. Mais non, je suis son arrière-grand-père. Posez pas des questions sur les enfants, ça, après, ça complique. Ah, une entreprise de pompes funèbres, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Bon, très heureux de vous retrouver en tout cas. Ah, en direct, en duplex. Ah, c'est pas con. Ah ouais. Docteur Strangelove. Ok, je vois. Salut Kalindi. Oh, merci Kalindi. Pourquoi c'est marrant, pourquoi j'ai pas le son? Attends, ah, je sais pourquoi. Attends. Propriété audio avancée. Ah, ah bah non, pourtant non. Quoi? Non, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tiens, j'ai plus l'alerte sub sonore et je vois pas pourquoi. Normalement, ça devrait marcher. Elle est pas active, ouais. Pourquoi? Non, mais ça fait un moment, ouais. Bon, peu importe, de toute façon, je vous vois, hein, je vous vois. Et merci encore, Kalindi. Donc, est-ce que je mets un drapeau de la Corse dans le setup, comme ça, tout le monde saura que je suis en Corse ou pas? J'ai peur que ça fasse conférence du FLNC, quoi. Ouais, c'est vrai? Sur les épaules? Ouais? Non, mais en vrai, vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que ça fasse peur aux gens. Ouais. Sinon, drapeau de la Bretagne? Ouais, mais non. Ah, si tu mets pas la cagoule, ça va? J'en ai des cagoules. Non, non. Non, non, retirez cette phrase. C'est pas... Non, je voulais pas dire ça. Le mug. Bah oui, le mug est suffisant en vrai. Mais oui. Mets un drapeau. Un quoi? Un. Oula. Donc, sinon, donc demain, c'est la conférence de presse de rentrée de France Télévisions. Hier, en courant, j'ai une idée drôle, parce que je trouve les idées drôles en courant. Trop long un peu. Bon, je suis pas invité à la conférence de presse de France Télévisions. Une énorme surprise. Mais genre là aujourd'hui, j'annonce que j'y vais. Je fais un petit tweet en mode bon, à demain les gars, on se voit à la conférence de presse de France Télévisions. J'ai des trucs à dire. Non, je suis en vacances, je vais pas aller. Hein? Est-ce que Ouais, c'est drôle, mais ils vont péter un câble, ils vont péter un câble. Ouais, désolé les amis, pas de stream demain, je fais la conférence de France Télévisions. Ouais. Non, mais alors que et après, donc après j'y vais pas. Et après, je poste une photo de moi sur la plage en train de prendre un cocktail. Et je dis, ah finalement, non, j'avais mieux à faire. Oh, c'est plus du troll, là. Là, je me suis dit, c'est marrant. Mais bon, c'est marrant. Est-ce que ça va faire rire tout le monde, quoi? J'ai un doute, là. J'ai un doute. Je sais pas si vous validez le move, là. Ce qui serait marrant, c'est d'y aller vraiment. Oh non, ça, non, je suis en vacances. Ça se tente ou pas? On valide toujours tes conneries. Hein. J'ai un doute sur le move. Merci Julien. C'est du troll subtil. Oh, c'est du troll violent, attends. C'est du troll violent. Salut Christine Paco, bienvenue Christine. Bienvenue dans la commu. Ouais Thierry, hein, tu trouves ça un peu violent toi aussi. Ouais. Ouais, j'ai un doute, ouais. Bon, allez, j'arrête de vous raconter mes bêtises. D'abord, merci d'être là. Merci d'être si nombreux le matin. On va essayer de faire des revues de presse tous les matins de cet été, lundi, vendredi à minima. Voilà. Merci, Ternalis. Merci beaucoup pour ton soutien. 25 mois. Et maintenant, je vous propose un petit sommaire pour vous dire de quoi on parle ce matin. Ça vous va? Merci, Madi. Merci, Madi 99 Mado. Merci pour ton 24e mois. On y va? Je vous dis ce qu'il y a dans l'actu? Il y a des trucs, il y a du léger, du moins léger. Ok. Ouais, Kalindi, ouais, t'as raison. Bon, la vanne était bonne, mais. Yo, un avis sur Emilien? Ouais, il est très fort. J'ai des avis passionnants, moi. Ok, let's go. Alors, ça passe par là. Oh là là, le boîtier d'acquisition qui marche du feu de Dieu. Je vous parlerai d'abord de la dissolution. Car Emmanuel Macron va à nouveau dissoudre l'Assemblée. Et ça troll dès le début de la revue de presse, pas du tout. Mais le cooldown est terminé, puisqu'il pouvait pas dissoudre pendant un an après la date des dernières législatives. Eh bien, le cooldown est terminé. Il peut redissoudre. Dissolution, piège à Macron, jeu de mots libération, hein. Piège à con, bien sûr. Un an après les dernières législatives, le président de la République retrouve le droit de provoquer de nouvelles élections. Hein. Voilà. Voilà, il peut recaster son ult, exactement. S'il affirme ne pas vouloir l'exercer, conscient que l'affaire sera encore plus risquée pour son camp, il n'exclut rien. Rappelez-vous, quand un politique dit un truc, ça vaut au moment où il le dit. Est-ce que Macron peut à nouveau dissoudre? Y aura-t-il un nouveau roster? Comme dit Raj. Voilà. En tout cas, Libération nous dit que les partis ne sont pas super chauds. Voilà. Double satchel plus dissolution, le site est clear, j'aime ses refs, j'aime ses refs. Donc on va se poser cette question. Ce sera l'occasion d'un petit peu d'un bilan aussi grâce aux échos. Là on est dans Libération. Les échos, les échos, les échos. Les échos, c'est où les échos? C'est là. Les échos, page 2. C'est tout début. Un petit bilan, un petit bilan. Ah, un an après législative, on en est où? Voilà. Eh ben nulle part. C'est nul. C'est rien. Il n'y a rien qui va. Un an après législative, une assemblée en crise, un président isolé. Merci les échos pour ce petit point. Un an après. Alors il y a du léger et du moins léger. Du moins léger. Ce matin, je vous disais, on va parler de Netanyahou. L'excellent La Croix, c'est un journal plus je lis, plus je l'aime, nous propose un grand portrait de Monsieur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Voilà. L'obsession du grand Israël. Alors, il y a une actu, c'est que Netanyahou doit rencontrer Donald Trump aujourd'hui. Hein. Est-ce que le président américain va réussir à lui imposer ses vues, hein, pour ramener la paix dans la région? La Croix profite de cette actualité, essayez d'articuler, Samuel, pour vous proposer un portrait de l'homme fort d'Israël. Voilà, on prend un peu de recul. on se penche, je l'imagine, sur le parcours, sur le corpus idéologique de ce monsieur pour comprendre un petit peu sa logique. Voilà. Toujours se mettre dans la tête de ceux avec qui on n'est pas d'accord pour essayer de comprendre pourquoi on en est là. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc, Netanyahou à la une de la Croix. Puisque je vous parlais de Trump, vous avez peut-être entendu parler de ce projet de loi-là, de Trump, hein, de méga budget, là. C'est dans la Croix, toujours. C'est Musk qui a tiré à boulet rouge dessus. C'est page 12. Voilà. Et là ouais, oui, The Big Beautiful Bill, c'est ça. Oui, il en parle comme d'une... je ne sais pas comment on traduit en français. Mais c'est ça. Trump, toujours modeste. Comment il dit? Ah oui, la grande et belle loi. La grande et belle loi. Voilà. Alors moi, j'ai vu passer des papiers là-dessus. Je me dis, mais alors, c'est quoi cette histoire? Il y a quoi dans ce texte? Bon, ben, dans la Croix, l'excellent La Croix, on a un papier qui nous dit clairement ce qu'il y a là-dedans. Trump arrache son méga budget pour bâtir son Amérique, MAGA, Make America Great Again. Le président a donc promulgué vendredi la grande et belle loi, The Big Beautiful Bill, porteuse de sa vision MAGA pour l'Amérique, avec à la clé une baisse des impôts, des coupes dans les programmes sociaux, une explosion du budget consacré à la lutte contre l'immigration. Voilà. Vous avez un budget qui explose encore un peu plus le déficit américain, c'est pour ça que Musk n'était pas content. Pourquoi ? Parce que les impôts baissent, donc moins de rentrées, malgré les économies dans les programmes sociaux. Hein. Et ce qui fait augmenter aussi la facture du budget, c'est un budget consacré à lutte contre l'immigration qui explose littéralement. Voilà, donc on va se pencher sur ça, l'article est assez clair et pédago. Voilà. Est-ce que j'ai du plus léger après ? Parce que là, on est vraiment sur le très sérieux. Ah oui ! Un truc, vous ne serez pas d'accord là. Souvent, régulièrement, quand il y a un accident avec une vieille personne, un accident de la circulation. Non, le budget. Oh, écoute, Futong. Quoi, l'immigration explose littéralement. Non, le budget de lutte contre l'immigration. Putain, c'est pas les vacances des oreilles, hein, c'est juste les vacances parce qu'il fait chaud. Hein. Faut écouter, bordel. Merci, Sam Blindmaker. Merci, Juste Montana. Merci, Maddy99 Mado. Vous êtes incroyable. C'est pas les vacances des oreilles. Donc, un truc qui va pas vous mettre. Je suis sûr que ça va crier, là. Oh, c'est encore la Croix. Ils sont bons, la Croix, ce matin. Page 24. Hein ? Page 24. Voilà. Alors, vous savez, quand il y a des accidents de la route qui impliquent des personnes âgées, il y a toujours des gens, notamment les jeunes, hein, qui disent « Ouais, ouais, il faudrait interdire les vieux de conduire. Hein. Ouais, moi, j'ai un papy, il n'entend plus rien. » D'ailleurs, il est en stream de Samuel, souvent, il ne comprend rien. On lui parle de la hausse du budget de lutte contre l'immigration. Il comprend la hausse de l'immigration. Enfin, il ne comprend rien. Il sucre les fraises, quoi. Et pourtant, il conduit. C'est un danger public. Voilà. Il faut empêcher les vieux de conduire. Il faut leur retirer le permis. Tiens, voilà. Et voilà les poujados dans le chat. Là. Ah, bah, ils ont pas tort. Voilà. Et puis, les plus gentils disent ouais, ils ont qu'à passer une visite médicale. Hein, bah, ça y est, ça vient d'être proposé dans le chat. Et puis, comme ça, s'ils n'arrivent pas à passer le test médical, on leur retire leur permis. Bon. Alors, y a une dame qui s'appelle Geneviève Jorgensen. Qui écrit là-dessus cet été et dit oui, c'est vrai. C'est vrai, parfois, on a les personnes âgées, quand, à certains moments, quand elles conduisent, ça peut être terrifiant, ça peut être inquiétant. Voilà. Alors, elle dit plein de choses. Elle dit souvent, les personnes âgées d'elles-mêmes, elles arrêtent de conduire. Moi, mon papa, par exemple, sur la fin de sa vie, bon, il trouvait qu'il n'avait plus les réflexes et tout, il a dit je ne veux plus conduire. Parce que c'était quelqu'un qui faisait très attention aux autres et, voilà. Et qui avait la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait le conduire, sa compagne. Il y a ça aussi. Donc, y a ceux qui arrêtent d'eux-mêmes. Il y a ceux dont la famille, quand elle est proche, quand elle est attentionnée, la famille doucement les incite à dire écoute, papy, mamie, faut arrêter. Quoi, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'auto-limitations comme ça. Et puis, cette dame a dit quelque chose donc, que je vous développais tout à l'heure. Elle dit les gars, si vous prenez les chiffres, notamment les assurances. Hein. Si vous voulez enlever les gens dangereux sur la route, attention les jeunes, vous allez hurler là. C'est pas les vieux à qui il faut retirer le permis. C'est à qui? Si on regarde les chiffres de la mort sur la route, les gens qui causent des accidents, tout ça, c'est à qui? C'est les jeunes. Eh ouais, c'est les 18-25 ans. Plutôt les jeunes hommes d'ailleurs. Ouais. Statistiquement, si tu veux regarder les stats, des gens qui provoquent des accidents mortels, si tu veux réduire la mortalité, il faut interdire les jeunes de conduire. Et d'ailleurs, quand tu regardes les assureurs, ils font payer plus cher les gens qui conduisent mal, les gens qui ont de mauvaises stats. Bon. Et vous savez tous que quand tu es jeune, eh ben, tu payes plus cher ton assurance. Voilà. Et en revanche, comme les assureurs, eux, ils ont les stats, Ah, le fameux prorata des kilomètres parcourus. Bah oui, bien sûr, parce que les jeunes, ils conduisent énormément, ils conduisent des milliers de kilomètres par an. Hein. Le jeune, en moyenne, il conduit 200 000 kilomètres par an, hein, bien sûr. Alors que le vieux, il conduit 100 mètres. Ah, le fameux argument, ouais. Non, non, l'argument définitif là-dessus, c'est les assureurs. Les assureurs, ils sont pas là pour vous faire plaisir. C'est comme les banquiers, ils sont là pour gagner de l'argent. Hein. Et les assureurs, ils mettent des surprimes aux jeunes, parce que les statistiques d'accidents, notamment chez les jeunes hommes, sont catastrophiques, et ils en mettent pas aux vieux. Et les assureurs sont pas vos amis. Les assureurs, ils sont là pour faire de la thune. Donc, s'il y avait un problème réel, statistique, avec les vieux, il y aurait une surtaxe pour les vieux. Et il n'y a pas. Voilà ce que nous dit cette dame. Je savais que ça allait vous faire réagir. Je savais que ça vous faire réagir. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on enlève le permis aux vieux. Mais je veux bien qu'on, dans ce cas-là, je veux bien qu'on enlève le permis aux jeunes aussi. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faudrait autoriser les gens à conduire entre 40 et 50 ans. Avant 40 ans, il y a un manque d'expérience, il y a un manque de sagesse. Voilà. 40 ans, tu as le droit de conduire. Et puis, tu arrêtes à 50 ans. Mais ça n'a rien à voir, Samuel! Ah ben oui, c'est ça. Bande de racistes anti-vieux. Va. Oh, oh, attends. On coupe les caméras. Il y a un enfant qui arrive dans le chat. Hop. Attends, je fais ça et je fais... Attends, ça. Tu peux venir. Ah, mon petit Solal, 5 ans, qui est venu me voir. Hop, on rallume ma caméra. Elle est où? Elle est là. Voilà, donc voilà, je fais exprès de vous lire cet article tout à l'heure pour vous faire réagir. Voilà, et j'attends vos arguments pour m'expliquer pourquoi il faut laisser conduire les jeunes conduire alors qu'ils sont beaucoup plus dangereux statistiquement que les vieux. Voilà. Les vieux, mobilisez-vous les vieux, là, parce qu'on a tous les petits cons dans le chat là, qui vont dire « Ouais, mais c'est pas vrai !» Et au kilomètre parcouru, et tout ça. Hein. Donc les vieux, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, quoi. Ok, soyez là quoi. Ah voilà, la fameuse petite visite médicale tous les 5-10 ans à tout âge. Ah, évidemment qu'il va éliminer que les vieux, parce que les jeunes, normalement ça va quoi. Je savais que ça vous ferait réagir, je suis trop content d'avoir ce sujet. Alors la dame aussi, elle dit que la voiture autonome, elle va résoudre tout ça. Hein. Elle va résoudre tout ça. Alors, j'ai ça, et puis j'ai. Bon, bah c'est pas de ma faute, il y a 2 pages dans Libération sur Question pour un champion. 2 pages. 2 pages. Libération, journal sérieux, hein, qu'on lit tous les matins, a consacré 2 pages à Question pour un champion. Page 18. Alors, comme c'est un journal sérieux, Libération va nous dire bah, écoutez, le jeu, il était trop vieux, il marchait pas. France Télévisions a eu raison de l'arrêter, quoi. Ah, bah non. Bah non, ils disent pas ça. Question pour un champion, le jeu menaçait, les fans bouleversés. En fait, c'est une double page dans Libération sur la tristesse des téléspectateurs de Question pour un champion. La décision de supprimer les quotidiennes du show présenté par Samuel Etienne suscite l'incompréhension chez son million de téléspectateurs. Oh la mauvaise foi. Dratsap, les statistiques ne disent pas que les jeunes font des accidents à cause des vieux. Ah oui, les jeunes font des accidents à cause des vieux. Oh, le niveau de troll. Ah oui, en fait, les jeunes, notamment les jeunes hommes qui roulent à 200 en ville, là, en fait, ils se crachent parce qu'à un moment, il y a un petit vieux qui était à 50 en ville. Tu te rends compte, le danger. Et non, il a fallu l'éviter. Ah, mais reste dans le débat, toi, en vrai. Je te veux dans notre débat. Hein. Ah non, mais le jeune, il arrivait, il était à 200. Oui, il était à 200, mais il était en plein contrôle de son véhicule. Hein. Et à un moment, il y a un vieux qui était pile à la limite. Il a fallu l'éviter. Ah ouais, je l'avais pas pensé celle-là. J'aime, je vous aime. Arrêtez les gars, les chiffres sont contre vous. Arrêtez de vous battre contre les stats sont contre vous. Arrêtez. J'adore. Vous avez les chiffres contre vous, vous avez perdu ce match. Rendez-vous tout à l'heure. La décision de supprimer les quotidiennes du show présenté par Samuel Etienne suscite la compréhension chez son million de téléspectateurs. Une pétition rassemblant plus de 44 000 signatures, ça ne cesse de monter. Il y a Zoubou Mafounoub qui a voulu écrire « Les stats sont truquées », mais comme il est bourré à 9h le matin, il a écrit les stars sont truquées », c'est ça ? « Les stars sont truquées ». Putain, vous voyez les jeunes, il est quelle heure ? Il est 9h58, c'est bourré. Et vous voulez qu'on vous laisse le volant ? Mais non les gars, c'est les stats qui sont truquées, c'est pas les stars. Oh, comment voulez-vous qu'on fasse confiance? Moi, avant 40 ans, je vais filer le volant à personne, c'est pas possible. Vous êtes une catastrophe. Voilà. Donc c'est vrai que là, voilà, donc le Libération s'interroge, mais alors Libération se pose une question que tout le monde se pose, mais pourquoi question pour un champion s'arrête? Pourquoi? Pourquoi le silence? Pourquoi? 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 Pourquoi quand je pense à nous, je... Après, je sais plus. Eh ben, Libération sait pas. Ils ont pas trouvé. Ça tombe bien. Moi non plus. Alors, qu'est-ce que, de quoi on parlera? Nous. Ah ouais, c'est Hervé Villard. Ah, faut que je vous fasse. Non, c'est Hervé Villard. Faut que je vous fasse écouter Hervé Villard. Nous. Vieille chanson, ça. Totalement cringe, ça. Très mal vieilli. À mon avis, très mal vieilli. C'est incroyable, ça. Eh ouais, vous n'avez pas connu Hervé Villard? C'était quelque chose, c'est. Hein? C'était quelque chose, ça. Hervé Villard, nous. Voilà, pour ceux qui cherchent. Vieille chanson. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ce matin? On finit le sommaire, on finit avec. Ah bah c'est tout. Ah non, il y a Émilien aussi. Ouais, Émilien qui a éliminé des 12 coups de midi là. C'est dans le Parisien, page 28. J'ai pas trouvé grand-chose dans le Parisien ce matin, j'ai trouvé ça. Bon, en vrai, l'article, il est pas fou, t'apprends rien. Mais bon, je me suis dit, je vais me faire engueuler si. Ouais, tu parles pas d'Emilien. Voilà, je voulais. À la fin, c'est Emilien qui perd. Le plus grand champion de l'histoire des Jeux télé français a chuté ce dimanche après 647 participations dans le programme Première Réaction. Bon. J'ai pas trouvé l'article foufou, mais je vous le lirai parce que j'ai rien trouvé d'autre. Ouais. Je pensais que Le Monde consacrerait sa une à cette histoire. Et non. D'ailleurs, je l'ai lu, Le Monde. Ah oui, je l'ai lu, mais j'ai rien trouvé ce matin. Ok. React Today à 17h sur son Twitch. Il a une chaîne? Non, c'est chez Rayou, non? Quoi? Il lance sa chaîne Twitch? À 17h? Mais on ne me dit rien. Bah voilà, c'est ça qu'il aurait dû dire, l'article du Parisien. Comment ça? Mais c'est génial! J'ai tapé Emilien. Comment s'appelle sa chaîne? Regarde son Twitter? Ok. Il a un Twitter? Alors Twitter Emilien. Parce que là, j'ai tapé Emilien, je l'ai pas trouvé la chaîne. Hein. Emilien. Alors Emilien, 12 coups de midi, Emilien, Emilien. Mais je l'ai pas. Même son compte Twitter, je le trouve pas. Emilien underscore Twitch. Il a pas de compte Twitter? Comment ça se fait? Je trouve pas son compte Twitter. Regardez, regardez. Je trouve pas son compte Twitter. Ah, c'est peut-être celui-là. Compte public, ancien maître de midi dans les 12 coups de midi. C'est celui-là? 29 000 abonnés, ça doit être ça. Alors, où est-ce qu'il parle de sa chaîne? Là! Ok. Ah, c'est sur sa chaîne! Ça y est, l'aventure des 12 coups de midi prend fin. Merci pour tout, Jean-Luc Reichmann. Nos équipes, au plaisir de se retrouver demain à 17h avec le GOAT Étoile sur Twitch pour un petit react de l'émission d'aujourd'hui. 8 000 followers, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous foutez de ma gueule. Il y a 8 000 followers seulement sur la chaîne d'Emilien. Rends-moi, t'inquiète, je vais l'enlever. C'est bon, c'est enlevé. Ah, il devrait être à 500 000. C'est une vanne? C'est une vanne? Il n'a pas encore lancé sa chaîne, mais le mec est une star internationale. Je viens de follow. Refresh. 8-7. Ah bravo, on est passé à 8-8. Il était à 300 follow hier? Ok, alors c'est cool. Je vais follow, moi. Hop, et hop. Incroyable! 17h. Ah putain. Je pourrais pas regarder en plus. Comme par hasard. Ouais. Comme par hasard, je pourrais pas regarder. Merci Défécateur officiel. Merci mon ami, merci pour le 41e mois. Merci Turin Turambar pour le 31e mois également. Merci Sam Blindmaker pour le Prime. Merci Just Montana. Merci beaucoup. Je peux pas à 17h. Encore un complot. De toute façon, tout le monde me met des bâtons dans les roues en ce moment. Merci à Electrastar pour l'abonnement offert à la commu. Je pourrais pas, j'ai un rendez-vous pour préparer ma retraite. Bah ouais, parce que je m'en vais bientôt, moi j'arrête les conneries bientôt. Va partir jouer à la pétanque, le petit pastis là, les bouquins, le petit café, le chocolat. Et donc là, 17h, j'ai un rendez-vous à. Non mais c'est vrai, hein, j'ai un rendez-vous pour préparer ma retraite. Ouais, pour choisir les pâtes, tout. C'est dans pas longtemps, hein. Profitez, hein. Bientôt, il faudra vous trouver un autre vieux sur Twitch. Bon, il reste Rayou. Merde, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu streameras toujours pour ma retraite? Ah bah non, non. Ah bah là, ça, je peux dire que fini, hein. Moi, je disparais. Vous pensez même que je serais mort alors que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Les boules de pétanque, le retour à la littérature, les livres, voilà. Petite série, petit film de temps en temps. J'irai au cinéma, voilà. Au frais. C'est climatisé, comme ça je ne mourrai pas de chaud. Voilà. Un petit gâteau de temps en temps, pas trop. Voilà, la pêche, un petit peu de pêche, mais sans hameçon, juste comme ça, pour faire le geste. Voilà. Ah non, je me retire de tout, moi. La retraite. Je me retire. Ou pas, ou pas. Ou pas. Peut-être que c'est pas tout de suite. Peut-être que je vais streamer toute ma vie. Peut-être que je vais consacrer ma vie à l'e-sport. Peut-être que je vais devenir champion du monde des vieux sur Valo, je sais pas. Ouais. Ma grosse bite, tu te retires vraiment de tout, Samuel? Ok, je ne commenterai pas. Ni ce pseudo, ni ce commentaire. Ok? On est parti pour l'actu parce qu'on a fait une intro d'1h08. Oh, l'UGC de Châtelet, j'ai été abonné, Marine, à une époque, j'y allais tout le temps. Quand j'avais du temps, quand j'étais jeune. C'est parti pour la revue de presse, bande de beaux gosses? Suis content d'avoir chanté Hervé Villard, moi. J'ai un go? Merci, mon sugar. Ok, on commence par la dissolution. Attends, ta balle perdue, c'est Gilles-C, mais c'est quoi cette histoire de Gilles-C, hein? Il s'est foutu de... Mais Gilles-C s'est foutu de moi? Il s'est foutu de moi? Pas Gilles-C, pas mon ami Gilles-C. C'est pas possible. Le dîner de con. Attends, dans une vidéo qui s'appelle Le dîner de con. On aime les pubs ici. Elle est affreuse cette pub. Il y a un mec à la DA là, de l'agence qui a provoqué ça. Il a dit moi j'aime le rose et le jaune. Ouais, okay, très bien, mais c'est quoi le concept de votre pub pour mettre en avant les bonbons Tagada là, Haribo là? Ah ben moi j'aime le rose et le jaune. Oui, très bien, on a compris. Ok, Patrick. Mais le concept au niveau de du synopsis, peut-être de la façon dont vous allez mettre en valeur les produits, du casting, des acteurs et tout. Moi j'aime le rose et le jaune. Pire pub que j'ai vue pour des bonbons depuis 30 ans, quoi. Incroyable. Ouais, bon. Excusez-moi, j'avais un coup de gueule à pousser contre cette pub là.
Évitez les ennuis.
Ça va la pub là?
Grâce à.
Jamais je. Il y a quelqu'un qui dit. C'est mon père qui l'a fait cette pub. Je suis désolé. Je retire ce que j'ai dit.
Je suis un fils de pute, chérie.
Wow. Ah oui, non, oui, oui.
Vous êtes dans cette énergie-là.
Celui qui rigole trop.
Lui, je l'aime bien, lui.
Il perd quelque chose, il a un gage.
Celui qui rigole le plus, il fait la veste.
Lui, je l'aimais bien, mais il paraît que c'est foutu de ma gueule, donc je l'aime plus. C'est un 29 minutes?
Celle de tout le repas.
Allez, trop long. Ah ouais?
Lui, je sais pas qui c'est.
Non, mais par contre, là, oui, c'est abusé.
Je déconne.
Les gars, dîner de con 3.
Ouais.
Bon, désolé juste pour le pansement.
Ça se voit pas.
J'ai un énorme star ce matin.
Personne n'a remarqué.
Ouais, c'est bon.
Explique. Bon.
Seb, la prod a payé ça ou pas? Ah oui, d'accord. Ah oui.
Oh non, non, mais allez, on mange là. I dream of farting into Jill's new nose.
Waouh! Oh, très fort!
Mais
ah ouais!
C'est un cauchemar, ah ouais, cette vidéo!
Quand il tape très très fort!
Dès qu'il y avait le mot qui était chanté dans la chanson, ça c'était très fort la synchro!
J'ai fait ça ce matin, hein, je sais pas pourquoi.
Bah, vous m'avez dit 29 minutes, j'ai mis à 29. Vous savez plus calculer vos tests, je mets un peu plus tôt, mais vous m'avez dit 29, je mets à 28.
Oh putain!
Ouais.
C'est à qui?
Non, ça
c'est un panic de qui?
C'est Seb qui a appelé ce gars-là et il lui a demandé de faire l'épée en dommage, sans vengeance.
Encore?
Classique.
Oh, c'est jamais été un 29 votre truc, c'est quand? Je mets 27? Bah, je sais pas, les gars, faut taffer, les gars, vous êtes approximatifs là. C'est ça les jeunes, ça sait pas conduire et puis ça donne pas les bons TC.
Pause. Qui rigole,
oh
qui s'impose, qui font des personnages, qui sont là toujours crier. Je déteste les mecs comme ça, qui prennent la place au milieu des repas.
Bah c'est bon, tu l'as?
Il est bien celui-là.
Je pense sincèrement que celui-là va devenir un même.
Les Noirs et les Arabes.
Quoi?
Mais laissez-moi finir, c'est vous de dire oh, de couper mon même.
On va voir où il va.
Quoi?
Les Noirs et les Arabes.
Quoi?
Je les adore. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal, ça peut marcher.
Ça peut marcher.
Avec le verre de vin et tout, ouais,
ça peut marcher.
Oh là.
Oh, c'est fou. Mais... J'en ai un, mais il nécessite un rire, mais c'est pas un vrai rire.
Ouais, vas-y.
On est d'accord, on le compte pas.
Non, ça compte pas. Wow, ça c'est très bien,
c'est
ça.
C'est très même, ça. Hein.
Avec le pansement, j'ai adoré.
Un peu nique pour ma part.
Attendez, il y a un truc là déjà.
C'est quand qu'on parle de moi?
Oh, mais attends.
Ah, c'est qui? Je me suis emballé, c'est pas moi.
C'est quoi?
Oh yes. Ah,
c'est Samuel Etienne.
Oh putain.
En vrai, c'est drôle. En vrai, comment il s'appelle? Je l'adore en plus. Comment il s'appelle le mec qui a dit ça? J'aime bien en plus. Il me fait rire. C'est Léopold.
C'est à qui?
Non, ça
c'est un planning de qui?
C'est Seb qui a appelé ce gars-là et il lui a demandé de faire l'épée en dommage, sans danger.
Ok, ok. Bon, j'ai pas vraiment pris un missile, hein. Ça rigole vite fait, c'est gentil, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi le. Attendez, juste, attendez, une précision parce que j'ai un doute. C'est pas moi, hein. Merde, j'ai tout cassé. Merde, j'ai tout cassé.
Elle est arrivée.
Bon, on se reprend une pub, on s'en fout. C'était pas moi, hein, le monsieur masqué là, qui faisait des proutes, hein. C'était pas moi, hein. Non, je tiens à préciser quand même, parce que je vous connais. C'était pas moi, hein. Non, mais je précise. Alors oui, oui, les temps sont un peu durs. Oui, il va falloir que je. Voilà, ça va falloir que ça. Voilà. Mais je n'en suis pas. Pour l'instant, j'ai refusé les propositions de faire des croisières pour les maisons de retraite, là. Et le vieux qui pète, là, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Allez, on commence. D'abord, Macron, je vais vous calmer, moi. Macron va dissoudre. Voilà. Bam. Ça, déjà, c'est parti. Libération. Voilà. Macron va dissoudre. Voilà. Bim. Ou pas. Dissolution, piège à Macron. Un an après les dernières législatives, le président de la République retrouve le droit de provoquer de nouvelles élections. Il peut le faire. Il peut redissoudre. S'il affirme ne pas vouloir l'exercer, bon, conscient que l'affaire serait encore plus risquée pour son camp, il n'exclut rien. Voilà. Tous les gens qui disent « soudre », comme Jenny Blake dans le chat, parce que je viens de dire « dissoudre », on vous voit, on vous connaît, on peut retrouver votre IP et ça va chier. Donc stop ! Les gens qui écrivent « soudre », quand je dis « dissoudre », hein, on sait qui vous êtes. Et on ira vous chercher. Un anniversaire, quel anniversaire ? Le retour du pouvoir de dissolution d'Emmanuel Macron, un an après le second tour des législatives du 7 juillet 2024, est réduit à un non-événement à l'Élysée. Voilà. On dit « c'est pas un événement, papa. » À chaque fois que la question est posée à Emmanuel Macron, parce que de temps en temps, des gens lui la posent, il jure que dissoudre à nouveau n'est pas son intention. Voilà. Les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter, a-t-il répondu vendredi. Mais, comme par hasard, il y a un petit mais, le petit c'est toujours dans les mais. Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel, disait-il le 9 juin à Nice. Parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation où je devrais utiliser la Constitution. Donc il dit, je vais pas le faire. Mais merci, Kevin. Mais attention. Hein, c'est marrant. Attention, hein. Merci pour Daniel Yo pour le 30e mois. La parole du chef de l'État vaut ce qu'elle vaut. En mai 2024, rappel Libération, il assurait que la conclusion qu'il tirerait des élections européennes serait d'abord européenne. Il a dit au moment des européennes là, qu'il allait perdre, il a dit « Moi, il n'y aura pas de conséquences pour la France. Je ne tirerai pas de conséquences politiques pour la France. Que des conséquences européennes. » Résultat, il a dissous l'Assemblée. Hein. Le premier qui dit « sous » dans l'Assemblée, parce que j'ai dit « dissous », j'irai vous chercher IRL. Je ferai du porte-à-porte. Je taperai le soir à la porte chez vous. Il sera 22h. Je serai là, tapis dans le noir. Je vais bondir ta Jaguar. Vous n'êtes pas prêts. Même ton VPN Walter Ego, je te retrouverai. Je vais vous sauter à la carotide, moi. Voilà. Donc Libé dit attention, les paroles des politiques n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter. On a vu la suite. Pourquoi le croire davantage aujourd'hui quand il dit ne pas vouloir de dissolution? Et lui répond, si vous voulez pas me croire, pourquoi vous me posez la question? Pas mal. Emmanuel Macron n'entend pas se laisser enterrer vivant à l'Élysée, ce qui est très désagréable. Je ne sais pas si vous avez déjà été enterré vivant, c'est très désagréable. Un peu moins de 2 ans avant la fin de son mandat. Il s'est montré d'ailleurs samedi en patron de sa famille politique, s'invitant par surprise aux 10 ans de la Fondation des Jeunes avec Macron. Il n'était pas annoncé, il est venu quand même. Tiens, c'est comme si demain il y a la conférence de rentrée de France Télévisions, conférence de presse, eh ben, je ne suis pas annoncé, ben, imagine j'y vais. Eh ben, Macron il a fait pareil samedi. Donc il a loué l'efficacité des jeunes En Marche dans la campagne électorale et il leur a dit d'avoir besoin d'eux pour que les 2 ans qui sont devant nous soient 2 années utiles pour le pays. Voilà. Voilà. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir des élections législatives anticipées? Donc est-ce qu'il pourrait y avoir une dissolution? Un ministre Les Républicains dit « Je ne pense pas qu'il garde un bon souvenir de la dissolution. Il a été meurtri de la façon dont les siens lui ont reproché sa décision. Je doute qu'il ait envie de recommencer. » Donc bon. Mais, encore le mais, il est transgressif. Il est comme Samuel Etienne. Bon, Libé ne le dit pas, mais moi je peux le lire. Il est toujours là, on ne l'attend pas. Là, on ne l'attend pas à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, bah pourtant il y est. Tu vois, par exemple. Les menaces de dissolution face à une Assemblée nationale en roue libre n'impressionnent pas grand monde. Compte tenu du faible bénéfice qu'il pourrait en tirer, ça m'étonnerait qu'il fasse ce choix. A dit qui? A dit Marine Le Pen. Voilà, elle n'y croit pas. Voilà. Allusion au sondage désastreux du couple exécutif. T'as une cote de confiance de Bayrou à 14%. Oh, il a 14% Bayrou. Waouh. Même Macron fait mieux, 22%. Ah ouais, Bayrou, j'avais pas vu. Mais s'il continue à creuser, il va trouver du pétrole. En France, on a besoin de pétrole, donc ça tombe bien. On a des idées, mais enfin, vous savez quoi. 14%. Waouh. Ah ouais. Waouh. Donc, un autre député Renaissance s'interroge. Ça amènerait encore plus de Rassemblement National à l'Assemblée. Donc, ça m'étonnerait. Imaginons, dit un ancien ministre macroniste, législative. Le RN gagne les législatives. Bon, là, Macron, il est foutu, quoi. Hein ? Il ne pourrait pas rester. À quoi bon prendre le risque si c'est pour retrouver une Assemblée nationale divisée en 3 blocs comme aujourd'hui ? Ça ne pourrait que produire une crise politique encore plus aiguë, dit Stéphane Peu, le président du groupe communiste à l'Assemblée. Ce serait irresponsable, mais le président est-il à ce stade encore habité par l'avenir du pays, se demande-t-il. En cas de dissolution, les élus de gauche redoutent un renforcement du RN, une percée des Républicains, notamment grâce à la nouvelle popularité de Bruno Retailleau. Voilà. Les gens pourraient se dire, allez, on essaie 1 an. Hein. Marine Le Pen, Première ministre. À mon avis, ça n'arrangerait pas trop Marine Le Pen, Première ministre, 1 an. Une dissolution arrangerait le RN et le LR qui pensent que le Front républicain n'existe plus et n'ont pas tort, dit une députée socialiste. Alors, analyse de Libération. Bah oui, Premier ministre inéligible, classe, bah oui. Le Squirrel TV, la marine est inéligible, donc ciao si nouvelle législative. Mais non, le Squirrel. Mais bosse ta constitution de la 5e, mon chouchou. Marine Le Pen ne pourrait pas être élue députée puisqu'elle est inéligible. Mais le poste de Premier ministre n'est pas un poste éligible. C'est un poste où tu es nommé, tu n'as pas besoin du vote du peuple. Et donc si le RN gagne, Marine Le Pen pourrait tout à fait être Première ministre. Enfin, ta constitution de la 5e, mon Bruno, c'est la base de la base. C'est la base. Bien sûr qu'elle peut être Première ministre, même inéligible. Aucun problème, Agnart. Aucun problème. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Merci Gimli 22 pour le prime. Nommer une élue condamnée, mais bien sûr. Et puis même, je pense même que Macron s'en ferait un malin plaisir, parce qu'après il pourrait dire bon bah moi j'ai été obligé de nommer la chef du camp qui a gagné, c'est un peu dommage parce qu'elle est inéligible, et bon après vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui avez voté. Hein. Tu vois les petits malins. En plus elle est présidente du groupe à l'Assemblée en plus. Donc ce serait carrément logique. Elle peut refuser de proposer Jordan. Ouais, elle pourrait faire ça aussi, t'as raison. tout à fait, t'as raison. Bon, on verra bien. Libé n'y croit pas. Libé n'y croit pas, cette solution. Emmanuel Macron semble surtout condamner à la frustration, incapable de se débarrasser de François Bayrou, dont la propension à l'immobilisme l'agace. Au dernier Conseil des ministres, il a une nouvelle fois exhorté le gouvernement à inverser la courbe des déficits sans revenir sur son sacro-saint dogme de non-augmentation des impôts, alors que le Premier ministre garde... Ça, c'est incroyable, ça. Un secret absolu sur les choix budgétaires qu'il doit pourtant présenter le 15 juillet pour baisser le déficit de 40 milliards d'euros. Vous avez un projet de budget très important qui arrive là le 15 juillet. Vous savez que les caisses sont un petit peu vides, c'est un peu problématique, le déficit est gigantesque. Bayrou veut baisser le déficit de 40 milliards d'euros, on ne sait pas comment. Il garde les annonces pour le 15 juillet. Ça va être très suspense, exactement à Croquesur. Très belle analyse de Zoram, et je ne dis pas ça en trollant. Bayrou a une capacité à faire le mort pour ne pas qu'on le tue qui est impressionnante. Et c'est très bien dit. Ça me semble très juste. Le président s'étiole dans son rôle de commentateur que l'on n'écoute plus que d'une oreille. Devant les jeunes avec Macron, il a mis en garde contre les divisions de son camp à l'approche de 2027. Blablabla, ça c'est du blabla. Voilà. Emmanuel Macron, il est moins entendu, moins écouté, bien sûr, que quand il avait vraiment du pouvoir. Il s'énerve un petit peu contre les sorties des ministres, notamment sur l'écologie, là, avec les ministres qui se déchirent sur cette question, qui ne sont pas d'accord. Voilà. Alors, est-ce que Macron a intérêt à dissoudre ? Libé dit non, mais il peut le faire. Est-ce que les partis ont intérêt à dissoudre ? Libération nous dit pas tellement. De la gauche à l'extrême droite en passant à l'air, tout le monde semble plutôt redouter cette éventualité. Pourquoi ? C'est intéressant. À gauche, le spectre de la désunion. Un an après la création de la NUPES, ou plutôt un an après la création du nouveau Front populaire sur les cendres de la NUPES, pardon. Beaucoup se demandent si la gauche parviendra à renouveler l'exploit sur un terrain miné de division. Hein. Donc le spectre de la division à gauche. Ils ont peur de revenir moins fort qu'ils n'étaient. Bah oui, Pascal, tout le monde le sait. Pourquoi tu rappelles ça ? Personne n'a dit le contraire. On l'a dit à peu près 10 fois depuis 5 minutes. Bon, enfin, mon Pascal, bordel. Pour LR, la peur de la défaite. Ok. En même temps, ils ont un petit peu la dynamique Retailleau quand même. Ouais, ils sont pas chauds non plus. Ouais. Ils ont que 47 députés. Hein. Ils ont peur de pas faire plus, quoi. Voilà. Et le RN, alors le RN qui continue à monter dans l'opinion a priori, pourquoi ils ne seraient pas intéressés par une dissolution décidée par Macron ? Le RN peut presser de retourner aux urnes. Voilà. Au RN, la règle est de toujours prétendre souhaiter une dissolution. Marine Le Pen dit à chaque fois qu'on va demander son avis au peuple français, je ne peux qu'applaudir dès demain. Mais passé les grandes déclarations de principe, la formation d'extrême droite paraît peu pressée de retourner aux urnes. Le Pen elle-même n'en tirerait qu'un avantage très limité, puisqu'elle condamnait une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Jordan Bardella serait donc le chef de campagne. Marine Le Pen trouve que ce n'est pas l'idée du siècle que Jordan Bardella soit encore plus mis en avant. Ah, ok. Donc ce serait pour ça. Parce qu'en termes de députés, je pense qu'ils ont un coup à jouer et ils pourraient revenir encore plus nombreux. Quoi. Et puis, Libération ne le dit pas, mais moi je le dis. Quel intérêt pour le RN de... Imaginons, le RN... Bon, Macron dissout. D'accord ? Le RN revient encore plus puissant. Hein ? Meilleur score. Il a une majorité absolue ou une majorité relative très forte et puis des élus LR le rejoignent, donc une majorité pour diriger. Mais pendant quoi ? Pendant un an ? Hein ? C'est quand la prochaine présidentielle 2027 ? Il resterait quoi ? Oui, un an... Attends, bah non, on est en 2025, il resterait quoi ? 2 ans, du coup ? C'est ça ? 2 ans ou un an ? 2 ans, il resterait 2 ans. Moi, ouais, je dirais 2 ans. Un an et demi. Quel intérêt ? Parce qu'en fait, le RN, pour la première fois, il va accéder au pouvoir. dans un moment où les finances sont vraiment extrêmement compliquées à gérer. Dans un an et demi, t'as le temps de bien décevoir tout le monde. Et du coup, tu... Merci, MMG. Et du coup, t'arrives à la présidentielle 2027 hyper affaibli. Après avoir subi l'exercice du pouvoir, ça use. Hein, ça use. Dans l'opposition, c'est assez facile de se dorer la pilule en disant « Vous verrez quand je vais être élu, vous verrez ce que vous verrez. » Quand tu es au pouvoir, c'est plus compliqué. Et donc le risque, c'est qu'en un an et demi, l'épreuve du pouvoir use le RN, ses troupes, ses idées, et qu'en 2027, le RN soit laminé et n'accède pas à la présidentielle. Ce qui est le but ultime, bien sûr, du Rassemblement national, soit avec Marine Le Pen, soit avec Jordan Bardella, si elle est toujours inéligible en 2027. Donc le RN n'a objectivement aucun intérêt à souhaiter. Et du coup, quelqu'un me faisait remarquer dans le chat, du coup, rien que pour ça, Macron pourrait tenter. Oh, le truc machiavélique. Alors, c'est vraiment. Le truc machiavélique. Alors, ce serait vraiment. Waouh. T'imagines, si Macron se dit. Ok, je vais dissoudre. Le RN gagne législative, mais large. Il arrive au pouvoir. Et pendant un an et demi, il foire le truc. Ou en tout cas, sa popularité du parti, de ses dirigeants, baisse fortement. Et au législatif 2027, c'est un candidat ou macroniste ou de droite qui gagne. Waouh. Putain, on va se prendre une dissolution. Mais le RN peut très bien refuser d'être Premier ministre. Impossible, Ribon. Impossible. Impossible, parce que ce serait les... Officiellement, le RN demande des élections en permanence pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc leur discours officiel, c'est « let's go les législatives ». Ils ne peuvent pas refuser. Ils peuvent pas, vis-à-vis des Français, ils ne peuvent pas dire « écoutez, on peut diriger le pouvoir, mais non, on va attendre ». Impossible. Ingérable. Oh putain, on va se prendre une dissolution. Voilà, comme le dit Nada _, refuser le pouvoir, ce serait tout contre tout ce qu'il demande depuis 50 ans. Avec le risque de l'effet contraire, c'est appeler aux gens et hop, en 2027, le règne de pouvoir. Bien sûr, Bouygues, bien sûr. Là, j'ai postulé que le pouvoir allait user le RN comme il use tous les camps. Hein, mais peut-être que je me trompe. Les deux scénarios sont possibles. Bon, à suivre. Ouais. Bon, c'est la politique fiction de toute façon. Mais l'info, c'est que techniquement, le président Macron peut dissoudre à tout moment. Voilà. Donc si ça tombe dans les prochains jours, vous aurez un petit peu le cadre. Merci beaucoup, Babadit. Pitié, pas de dissolution à parler. À tous les coups, ça tomberait pendant les vacances. Il va falloir trouver des amis qui font la tournée des bureaux de vote dans tous les villages du coin. Merci, Gimlip. Merci, Panda Nirio. C'est incroyable. Ok, donc vous avez l'info. Un an depuis la dissolution, c'est l'occasion d'un bilan qui est en une, je crois, deux des Échos ce matin. Voilà, un an après la législative, une assemblée en crise et un président isolé. Bon, on va faire rapidement un petit bilan. Voilà, qui est très bien résumé par le titre. Assemblée en crise et un président isolé. À l'Assemblée, le travail des parlementaires devient illisible. Plus affaibli que jamais, Emmanuel Macron peine à dessiner la fin de son quinquennat. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, reconnaît elle-même qu'il y a eu des moments de bordel innommables à l'Assemblée, pour marquer, en parlant de cette année parlementaire. Un an après la dissolution et les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, le quotidien du Palais Bourbon, morcelé en trois blocs de taille équivalente gauche, le socle commun, et l'extrême droite semble davantage rythmée par les motions de censure, les cris, les invectives que par l'examen de grandes réformes. Mais il y a des moments aussi l'Assemblée a pu travailler, rétorque sa présidente. Alors il y a eu des lois quand même, 47 textes définitivement adoptés à l'Assemblée, soit plus que pendant d'autres législatives, donc il y a eu du travail. Mais malgré tout, du fait de l'absence de majorité, l'impression d'immobilisme est forte. Elle éclabousse tout l'exécutif de Matignon à l'Élysée. Cette impression vient en partie du fait que le gouvernement ne porte quasiment plus de projets de loi et s'appuie sur les propositions de loi élaborées par les députés. Pour la plupart concentrées sur des enjeux de proximité ou d'ajustement. Il n'y a pas de grande réforme, quoi. C'est pour ça qu'on a l'impression de cet immobilisme. Profitant de la faiblesse de l'Assemblée, le Sénat devient le maître du jeu. Les principaux textes sont désormais souvent issus du Palais du Luxembourg, comme celui sur le narcotrafic. Généralement, le Sénat est un peu plus conservateur que l'Assemblée. Le socle politique de Bayrou est aussi constamment au bord de l'implosion. Il brille par ses divisions. Quand nombre de personnalités, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, se sont mis dans l'orbite de la présidentielle 2027. La dissolution a accéléré la fin de ce second quinquennat. Question que posent les Échos. Le chef de l'État aurait-il appuyé sur le bouton de la dissolution s'il avait pu voir à quel point elle allait aggraver les difficultés politiques du pays ? Alors, une clarification politique a quand même eu lieu, nous dit les Échos. Aujourd'hui, le PS a pris ses distances avec LFI. Voilà. À droite aussi, il y a une forme de clarification puisque les LR ont finalement accepté de participer au gouvernement. Ouais. Alors, c'est vrai que la vie à l'Assemblée est difficilement lisible, mais elle n'est que, explique le journal, que le reflet d'une vie politique qui est chamboulée. L'Assemblée n'est que le reflet de la situation politique actuelle. Elle n'est pas déconnectée. Et puis les Échos constatent aussi que malgré son nombre de députés très important, le RN, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est impuissant à l'Assemblée, au Palais Bourbon. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'alliés pour voter ses textes. Donc il propose des textes, mais ça ne passe pas, quoi. Voilà. Le RN apparaît fort, mais il peine en pratique à sortir de son isolement. Il ne parvient pas à faire voter ses propositions parmi les plus symboliques. La question du sort toujours en suspens de Marine Le Pen qui connaîtra son jugement en appel à l'été 2026, dans un an. L'annonce de la condamnation de leur chef de file en mars dernier pourrait faire de tétaniser une partie de ses troupes. Ils n'arrivent pas à imaginer un monde sans Marine. Okay. On apprendra l'été prochain seulement, 2026, si Marine Le Pen est définitivement inéligible ou pas. Intéressant. Pour résumer, c'est le bordel. Comme d'habitude. Pourquoi ça ? Bah, c'est le temps de la justice, mon Agnard. Je sais pas, moi, je dirais ça, moi. C'est long, hein. On est en Corse, Valentin, on est en Corse ? On est en Corse, on est en vacances en Corse ? C'était super, Jarkra avec Yendo. Je me suis régalé sur Marvel Rivals. Ça va être un de mes jeux de l'été, ça. Ça va jouer, ça va jouer. Ah, et mon petit Malo, là, qui descend aussi. C'est qui le BG en t-shirt noir ? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici qui répond à cette description. Désolé, Black Waterloo. Bon, voilà pour un petit point sur la politique. C'est bien de faire une petite piqûre de rappel sur la situation. Hein ? En deuxième sujet ce matin, je vais vous parler de Netanyahou. Voilà. D'abord, s'il y a une actualité, il rencontre Trump à Washington, là, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, et c'est l'occasion pour l'excellent Lacroix de nous faire un portrait de Netanyahou. Qui est-il ? L'obsession du grand Israël, alors que Netanyahou, donc premier ministre israélien, doit rencontrer Donald Trump aujourd'hui, le président américain va-t-il parvenir à imposer ses vues à son hôte, portrait de l'homme fort d'Israël. Donc les deux hommes, Netanyahou et Trump, doivent se parler aujourd'hui, doivent revenir sur leur victoire commune en Iran, mais aussi sur la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza, réclamé par qui ? Par Trump. Sous pression de son parrain américain, mais soumis à ses partenaires de coalition, hein, je vous rappelle que Netanyahou est allié à des partis d'extrême droite en Israël, Netanyahou ne va tenter de louvoyer comme il l'a fait ces 30 dernières années. Il a façonné les... Ça, c'est incroyable, la longévité poétique de cet homme. Il a façonné les trois dernières décennies d'Israël. C'est fou quand même. Et reste aujourd'hui, même poursuivi par la justice et contesté dans la rue, l'homme le plus puissant de l'État hébreu. Artisan de l'annexion rampante de la Cisjordanie et de la guerre sans fin dans la bande de Gaza, rien ne semble l'arrêter. La vidéo enregistrée à son insu en 2001, diffusée en 2010 par une chaîne israélienne, avait eu le mérite de la clarté alors qu'il se trouvait dans la colonie d'Ofra en Cisjordanie, auprès d'une famille endeuillée par un attentat palestinien. Netanyahou expliquait fièrement avoir fait dérailler les accords d'Oslo, 93. Les accords d'Oslo, les accords qui visaient à ramener la paix dans la région, notamment avec la solution des deux États. Et Netanyahou se vante alors d'avoir fait dérailler ces accords. Il ajoutait qu'il fallait frapper les Palestiniens, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, les frapper jusqu'à que ça fasse mal, jusqu'à que ce soit insupportable. 22 ans plus tard, c'est un Netanyahou arrivé à son sixième mandat qui brandit cette fois devant les caméras du monde à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU une carte de son nouveau Moyen-Orient. Les États ayant rejoint les accords d'Abraham en 2020 sont représentés en vert, mais excitent Gaza et la Cisjordanie comme avalés par Israël. Manichéen, il oppose la bénédiction de ses nouveaux alliés à la malédiction de ses ennemis, Liban, Syrie, Irak, Iran. C'était en 2023, le 22 septembre, 15 jours avant les attentats terroristes du 7 octobre. Entre ces deux séquences, et avant même de devenir Premier ministre en 1996, Netanyahou a toujours cherché à faire dérailler le projet palestinien au profit d'un grand Israël tout-puissant au Moyen-Orient. C'est une constante idéologique chez lui. C'est un héritier revendiqué de Zev Jabotinsky, leader de la tendance sioniste dite révisionniste, favorable au Eretz Israël, terre d'Israël, dont son père, Benzion Netanyahou, a été le secrétaire. Il a été biberonné à la philosophie politique du Jabotinsky ultra-nationaliste et libéral, explique David Kalfa, qui est un chercheur à la Fondation Jean Jaurès. Netanyahou est un nationaliste convaincu, persuadé qu'il y aura un combat à la vie, à la mort, entre le mouvement national juif et le mouvement national palestinien. Sturm 14 écrit « C'est tellement faux, je ne sais pas de quoi tu parles, mais si tu essaies de nous convaincre que Netanyahou est un artisan de la paix dans la région depuis toujours, je pense qu'il va falloir que tu nous sortes deux, trois éléments d'explication. » Vainqueur de justesse de Shimon Peres en 1996, il est accusé d'avoir contribué au climat de haine ayant mené à l'assassinat d'Itzhak Rabin quelques mois auparavant et d'empêcher l'aboutissement du processus d'Oslo. Avec lui, la colonisation juive commence à prospérer. Il lève des restrictions à l'établissement de nouvelles implantations illégales en Cisjordanie. Résultat, au cours de sa dernière décennie au pouvoir, elles y ont dépassé les 490 000 habitants pour 2,9 millions de Palestiniens, menaçant davantage la création d'un État palestinien viable. Évidemment, encourager la colonisation juive illégale de la Cisjordanie, avec de plus en plus de juifs israéliens qui vivent en Cisjordanie, c'est compliquer encore plus la création d'un État palestinien englobant la Cisjordanie, en disant bah, « Attendez les gars, il y a 400 000 Israéliens qui y vivent, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne le pouvoir à un État palestinien sur cette zone hein, c'est à nous maintenant. Hein. » Ouais. Bon, après, il y a des gens dans le Il y a quelqu'un dans le chat qui me disait que le mec était un artisan de la paix. Quoi. Bon, faut qu'on m'explique. Netanyahou a le sentiment qu'Israël est trop petit pour lui, dit un docteur en sociologie politique à Sciences Po et enseignant israélien à l'université hébraïque de Jérusalem. Il est comme le roi Hérode dans l'Empire romain, doué, mais très détesté, coincé dans un petit coin du globe, à l'est de la Méditerranée, alors même qu'il voudrait régner sur un immense territoire. Bon, il se voit plus gros, quoi, qu'il n'est. Pour sa survie politique personnelle, Bibi est prêt à tout. C'est un Machiavel, un Florentin, passé maître dans l'art de déjouer ses adversaires et de dire tout et son contraire. Voilà. Eran Tsidikayou, le chercheur, voit en lui un des premiers populistes au monde. Il divise pour mieux régner. Voilà. Il a compris que ses partenaires naturels seraient toujours les droites, les colons, les ultra-orthodoxes. Benjamin Netanyahu, parfois surnommé le bulldozer dans les médias nationaux, plonge Israël dans une période de guerre tous azimuts. Gaza, le Liban, les opérations militaires répétées en Cisjordanie, avant l'Iran. Il est toujours plus facile d'agiter la corde de la survie que celle de l'espoir, les négociations. Cela fonctionne très bien au sein de la société israélienne. Dans le judaïsme, la paix vient après la survie, avec le sentiment d'être en survie permanente depuis 75 ans. Estime Denis Charbit, qui est professeur de sciences politiques dans l'université d'Israël. À 75 ans et donc près de 30 passés au pouvoir, Bibi se présente une nouvelle fois victorieux quand beaucoup l'enterreraient après le tragique échec sécuritaire du 7 octobre 2023. Il y a trois semaines encore, l'interminable guerre à Gaza, son refus à prioriser les otages lui valait des niveaux d'impopularité record, son procès pour corruption sans cesse reporté menacé de reprendre, une motion de censure risquait de lui être fatale, mais la guerre des 12 jours menée aux côtés des États-Unis en Iran semble avoir temporairement sauvé. Il se targue désormais de sauver la face de changer la face du monde. Waouh. Sans être religieux, Netanyahu a adopté une approche messianique. Il a commencé à croire qu'il avait été élu par une force supérieure pour sauver Israël. Il renaît de ses cendres tel un phénix alors qu'on l'a donné mort politiquement à plusieurs reprises. Là, il prépare le cessez-le-feu à Gaza. La guerre, la défaite de l'Iran, l'humiliation du régime iranien vont clairement le servir dans la future campagne électorale. Il va se présenter comme un homme d'État avec enfin une victoire après le 7 octobre. Voilà. C'est déjà le regard vers les prochaines élections. Quoi. Là, vous avez son parcours, pour ceux qui s'intéressent, dans la croix. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Hélas, Kakola, comme beaucoup d'hommes politiques, le pouvoir rend fou. Alors, Bibi sous la pression de Trump, puisque les deux hommes doivent se rencontrer aujourd'hui pour une trêve à Gaza. Trump entend décrocher un accord de cessez-le-feu à Gaza. Qu'est-ce qui va se passer ? Trump l'a répété, s'est promis, il sera ferme, très ferme, face à Netanyahou, qu'il reçoit aujourd'hui. On verra. Là, c'est de l'analyse, c'est de la supputation. On va voir ce qui va se passer. Je vous lis. Trop content de Race for Gaza hier, elle est presque 300 000 données, me dit Crimsonk. Donc bravo à tous les streamers et les streameuses engagés, effectivement. Hein. 300 000 euros, c'est énorme. C'est fou, ça. J'ai vu qu'il y avait Moment, j'ai vu qu'il y avait Fugu, et plein de gens qui étaient mobilisés. Merci Skiz ZDL, merci beaucoup. Ouais, bravo. Ça avait l'air... Il y avait Antoine Daniel, me dit Antoine. La team Antoine. Plus de 100K chez Ponce. GG Ponce. Merci à Ténon pour le Prime. Il y aura un suivi de l'argent. Je sais pas du tout. Ouais, moi, j'ai pas participé à celle-là. J'ai participé à deux fois à des streams pour les populations civiles de Palestine. Mais là, j'avoue que j'étais pas au courant là. Je l'ai un peu appris hier. Ou alors, j'ai raté les messages. Je m'en veux d'ailleurs. C'était Médecins Sans Frontières hein, qui étaient bénéficiaires des dons, là, je crois. En tout cas, bravo à tous ceux qui se sont mobilisés. Ça a l'air super. C'est pour une mission précise de MSF, me dit Zoram. Donc oui, le suivi est trouvable. C'est la destination des travailleurs déjà sur place. Ok. Les travailleurs de MSF, très bien. Bon, bah, ça a l'air très fléché, ouais. Non, j'avoue, Hortès, là, j'avoue que je l'ai appris hier, ouais. Le Proche-Orient, on en parle tous les jours ici, ou presque. On reviendra dans les prochains jours, notamment sur ce qui s'est passé entre Trump et Netanyahu, voir si ça a bougé ou pas, quoi. Et que que l'horreur de ce que vivent les civils palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, puisse enfin s'arrêter. Quatrième sujet ce matin, on reste avec Trump, le méga budget de Trump. Enfin un article clair qui nous dit ce qu'il y a dans ce texte. Voilà, tout le monde en parle depuis quelques jours, mais grâce à la Croix, on va pouvoir enfin savoir exactement de quoi il est question. Page 12 dans la Croix aujourd'hui. Ah, cette grande et belle loi, nous dit Trump. C'est marrant, il n'est jamais, jamais avare de jolis mots et de compliments concernant sa politique. À Croquesur, on a évoqué cette question du génocide à Gaza à peu près une quinzaine de fois ou une vingtaine de fois ou une trentaine de fois dans mes streams. Alors, je ne peux pas le refaire à chaque fois que quelqu'un me pose la question. Donc, tu vas être obligé de te faire les replays. Parce qu'en fait, si je reviens sur des choses qu'on a déjà traitées pendant des heures sur chaque revue de presse, on n'évoque pas les autres actualités. Et ça laisse tous ceux qui ont déjà participé à ces débats ici. Quoi. Voilà, donc, désolé de te répondre ainsi. Je ne vais pas te répondre en une minute sur une question aussi importante que le génocide, tu le comprendras bien. C'est une question qui mérite au moins une heure de développement. Et je ne peux pas le faire tous les matins. Sinon, ce ne serait pas une revue de presse, ce serait l'actualité du prochain. Alors, Trump arrache un méga budget pour bâtir son Amérique MAGA. Le président a promulgué vendredi, ça, c'est lui qui le dit, grande et belle loi porteuse de sa vision MAGA, Make America Great Again. Avec à la clé une baisse des impôts. Donc ça, évidemment, ça aggrave le déficit, des coupes dans les programmes sociaux, petite économie, une explosion du budget consacré à la lutte contre l'immigration. Donc, il a fini par avoir un gain de cause, c'était assez compliqué au Congrès. Jeudi, les députés ont finalement donné leur feu vert à ce texte de 900 pages, approuvé la veille par les sénateurs. Voilà. Cette loi porte la vision MAGA de l'Amérique défendue par la Maison-Blanche, avec des milliards, pourquoi ? Pour financer des centres de détention pour les migrants, des dollars à gogo pour l'immigration and custom enforcement, qui est la politique de l'immigration, des cadeaux fiscaux, merci Satodoc pour le 12e mois, merci du soutien, des cadeaux fiscaux pour tous, surtout pour les plus aisés, diront les démocrates, des coupes massives dans les programmes publics de santé au nom de la lutte contre la fraude. Le bureau budgétaire du Congrès, qui est chargé d'évaluer de manière non partisane l'impact des projets de loi sur les finances publiques, estime que le texte augmentera la dette de plus de 3 000 milliards de dollars d'ici à 2034, un comble pour le Parti républicain qui, à l'habitude, essaie de se présenter comme le parti de la responsabilité fiscale et qui dénonce le laxisme des démocrates en matière de finances publiques. Là, le déficit, il va exploser. Voilà. De nombreux élus sont d'ailleurs fait tirer l'oreille pour avaler ces couleuvres budgétaires. Trump n'a remporté ce combat que sur le fil au Congrès. Trump, Musk notamment, a énormément, l'ancien allié de Trump, énormément dénoncé lui qui voulait diminuer les dépenses de l'État fédéral, a énormément dénoncé ce projet. D'ailleurs, Trump, il a même le projet, pour le coup, de créer un parti politique. Voilà. Il y a peu de chance que ça aille au bout, mais voilà. Ouais, c'est un peu, oui, Musk, Trump, c'est un petit peu les feux de l'amour. T'as raison, Lolo. Ouais. Je ne paye pas d'impôts car je ne gagne pas assez. Ne vous plaignez pas de payer des impôts, dit Ketchup. Mais personne ne se plaint ici, personne ne se plaint. Moi, je ne me plains pas, moi. En général, quand je paye moins d'impôts, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que je gagne moins qu'avant. Donc, ça a été serré au Congrès. Voilà, mais insuffisamment pour faire trébucher cette belle et grande loi voulue par l'homme à la casquette rouge. Cette victoire confirme une fois de plus l'emprise du locataire de la Maison-Blanche sur son parti, sur les Républicains. Donc, Trump a maintenant les coups des franges pour lancer la transformation MAGA de l'Amérique. Meilleure illustration de ce texte, lutte contre l'immigration. Le budget annuel de l'ICE est de 10 milliards, donc c'est la police de l'immigration. Voilà, le budget actuel, c'est 10 milliards. Or, cette police de l'immigration qui traque les migrants va recevoir plus de 100 milliards d'ici à 2029. L'équivalent d'un surplus sur quelques années du budget d'une décennie. 45 milliards pour construire des centres de détention, autant pour la construction du mur à la frontière mexicaine, plus 10 milliards pour les opérations d'expulsion. Voilà. C'est 100 milliards de dollars qui vont être donnés en quelques années à cette police de l'immigration. En outre, cette police sera pourvue d'une autre enveloppe budgétaire pour embaucher 10 000 agents supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est pour l'immigration. Même effet structurant sur l'écologie avec l'abandon des principales mesures adoptées par les États-Unis pendant la période Biden. Hein, le crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule électrique sera supprimé. Les aides fédérales pour les projets éoliens et solaires supprimées. À l'inverse, le charbon va bénéficier d'un coup de pouce. On est bien là. On est bien. Chaque semaine, on a un événement météo qui confirme le changement à long terme climatique. Voilà. Et t'as la première économie du monde qui met des aides au charbon. Tout va bien. Tout va bien. Pour faire face à cette générosité soudaine, hein, les Républicains ont dû prévoir des coupes, notamment dans Medicaid. Ah oui, parce que générosité, c'est la baisse des impôts. Hein, aussi. Surtout pour les plus riches, mais la baisse des impôts. Et pour faire face à cette générosité soudaine, les Républicains ont dû prévoir des coupes, notamment dans quoi ? Dans Medicaid, hein, le programme public d'assurance santé, dont dépendent des millions d'Américains aux revenus modestes. Réduction drastique du programme d'aide alimentaire à la nutrition, principale aide alimentaire du pays, également prévue. Pour l'instant, ces conséquences sont abstraites pour les Américains. Les démocrates qui pensent ce projet impopulaire se disent que c'est peut-être ce qui va leur permettre de gagner les législatives de 2026, ce qu'on appelle les élections de mid-term. De mi-mandat. Voilà pour le contenu de ce texte. Donc il y a des coupes budgétaires qui devraient donc faire gagner de l'argent, mais les dépenses sont-elles en baisse d'impôts et en lutte contre l'immigration qu'en fait ce budget il va faire exploser la dette de plus 3 000 milliards de dollars. Waouh. Voilà où on en est. MMG me dit que 17 millions d'Américains vont perdre leur couverture santé. Cette loi, c'est vraiment prendre aux pauvres pour donner aux riches un peu, bêta version Marion. Ouais. La police de l'immigration aux États-Unis, me dit l'autre 46, a désormais plus de budget que certaines armées au monde. C'est difficile d'être optimiste pour l'avenir avec toutes ces actus. Anya Hart et d'autres me disent, dis donc, les actus ce matin, Samuel, c'est... N'oubliez pas que ce que font les journaux et les médias notamment, c'est vous rapporter en général ce qui ne va pas sur cette planète, ce qui ne va pas dans ce monde, ce qu'on devrait pouvoir arranger, tout ce qui est vecteur d'espoir est un petit peu sous-exposé dans les médias traditionnels. Donc là, moi, je vous rapporte ces mauvaises nouvelles pour qu'on en prenne conscience et que nous, aujourd'hui, nous, demain, ou nos descendants, fassent bouger les choses pour améliorer tout ça. Mais, comment dire, ne vous laissez pas impacter par cette litanie de mauvaises nouvelles. Hein. Comment dire ? On va pas tous mourir demain, quoi. Voilà. Tu me casses tes couilles, Sturm, là. Je dois te prendre un historique, toi. 9 messages, voilà, ça pue la merde. Ah, t'es nouveau et tu racontes que du caca, là. Pfff. Ah oui, mais oui, c'est le côté palestinien, c'est oui. Oui. Bon, comme OK, ouais. Ah oui, mais c'est parce que oui. Sturm est très pro-israélien, donc du coup ce qu'on a lu tout à l'heure sur Gaza, ça l'a énervé. Peut-être que si ça avait été une autre actu, il aurait été plus moins. Ouais, j'ai vu, ouais, oui. Peut-être qu'on peut le laisser en Théo, peut-être qu'en Bandef, peut-être qu'on peut lui laisser une deuxième chance pour qu'il soit un peu moins agressif. Hein, Sturm. Hop, te voilà de retour. Voilà, merci beaucoup les modos. Donc t'es pas en Bandef, t'es en Théo. Tu viens d'arriver sur cette chaîne, t'as 9 messages d'ancienneté, tu t'es braqué sur le Proche-Orient. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Sache ici que le Proche-Orient, on en parle quasiment tous les jours pendant des heures. Pendant des heures. Ce que je t'invite à peut-être à regarder, c'est d'essayer de rattraper ton retard sur les débats qu'on a pu tenir ici sur cette chaîne pour comprendre un petit peu quel est notre regard sur ce sujet. Il a un an d'ancienneté, oui, mais il a envoyé que 9 messages. Donc on te fait confiance, mais si tu continues d'être si agressif, nous, ça ne nous intéresse pas tellement et évidemment, ça dégage. Ok ? Ah ben oui, Ricu, c'est ça, c'est un peu l'objectif. Ouais. Carole dit bonjour Samuel, il faut tout de même reconnaître que l'avenir n'est pas tout rose, il est difficile de garder le moral. Pfff, mais l'histoire de l'humanité, c'est ça tout le temps en fait. L'humain est désespérant, les gars. L'humain est désespérant depuis toujours, depuis la nuit des temps. En fait, on fait nous, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et ceux d'avant, on fait que de la merde régulièrement. Si tu te focalises sur ce qui ne va pas, hein. L'homme est un humain un peu bizarre qui est capable d'amour comme des pires dingueries. Mais ça a toujours été comme ça. C'est juste que aujourd'hui, comme les médias sont beaucoup plus nombreux, et encore plus à l'heure d'Internet, c'est surexposé, t'es surdocumenté par rapport à ça. Voilà. Oui, pour forcer un petit peu le trait, comme le dit Christolien, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, l'avenir était tout rose, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est juste plus au courant de la merde qu'avant. Voilà. Donc t'as l'impression que c'est... Mais non, c'est juste comme avant. C'est juste que maintenant, tu le sais. Voilà. Voilà. Et dans 1000 ans, on sera toujours là. On dira les mêmes choses. Bon, on est toujours là. Sauf si on s'occupe pas de l'environnement, c'est un peu compliqué sinon. Allez, Proche-Orient, on en reparle demain, parce qu'on aura peut-être le retour sur ce que Netanyahou et Trump se sont dit. Je vous emmène mon petit débat sur les vieux au volant. Oh, la régalade. Ma régalade. La croix, on reste dans la croix. Masterclass, la croix ce matin. Oh, ma petite régalade. Ah oui. Ces bons esprits qui disent à chaque fois qu'il y a un accident avec une vieille personne en disant « Mais c'est pas compliqué. » Déjà, quand une analyse sur un sujet commence par « C'est pas compliqué », déjà, tu sais que c'est faux. Voilà. Donc, ah, non, mais moi, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Bon, déjà, quand quelqu'un vous dit ça, vous savez qu'il se gourre. Donc, ça, c'est un premier indice, c'est un premier signe. Donc, à chaque fois qu'il y a un accident qui implique un vieux, t'as toujours des gens qui débarquent sur les réseaux en disant « C'est pas compliqué, il suffit d'interdire de conduire aux vieux ou de faire passer la fameuse visite médicale. » Voilà, et on n'aura plus d'accidents avec des vieux. Et d'accidents tout court. Et puis moi, maintenant, je vais vous lire l'avis d'une dame qui s'appelle Geneviève Jorgensen dans La Croix, sur le sujet. Vous allez voir que le problème, il est un petit peu plus complexe que ça. Notamment si on regarde les statistiques des accidents des jeunes. Des vœux pour de bonnes vacances, voilà ce que j'avais en tête en m'asseyant à mon bureau. Un thème tragique s'était là s'imposer, le procès dans lequel a comparu la semaine dernière une automobiliste de 83 ans, roulant à contresens un an plus tôt, qui a provoqué la mort d'une petite cycliste qui n'avait que 10 ans. Donc ça, c'est dramatique. Chaque fois qu'un conducteur âgé est l'auteur d'un accident grave, revient cette question de l'âge limite qui conviendrait d'imposer au détenteur du permis. Quand lâcher le volant ? À 70 ans ? À 80 ans ? Plus ? Les statistiques d'accident n'aideront pas à répondre. Car s'il fallait corréler les accidents à l'âge des conducteurs, c'est aux jeunes qu'on interdirait de conduire, ce qui ne saurait se faire qu'en absurdité. S'il y aurait des statistiques des conducteurs qui provoquent le plus d'accidents, c'est les jeunes, c'est ce que je vous disais. Donc si on part sur la logique de l'âge, il faudrait interdire les jeunes au volant, notamment les jeunes hommes, pour être tout à fait précis. Donc elle dit, c'est pas possible, dit Geneviève. Plus acceptable socialement, mais aboutissant dans la même impasse, l'idée d'introduire une visite médicale obligatoire pour tous. Personne ne va dire jusqu'à dire comment, à l'heure des déserts médicaux, on trouverait assez de personnel pour faire passer les tests à 38 millions de détenteurs du permis, mais l'intendance suivrait. Hein, si on veut se donner les moyens, on pourrait le faire. Reste que là encore, c'est parmi les jeunes en pleine santé qu'on trouve le plus grand nombre d'auteurs potentiels d'accidents graves. Donc c'est vraiment la visite médicale, c'est que pour les vieux, on est bien d'accord. Non mais, Geoffroy Leroux de Béziers, argument fallacieux, les jeunes n'ont pas des accidents à cause de défauts de réflexe ou de manque de lucidité, contrairement aux plus âgés, mais peu importe, on s'en bat les couilles. Que les jeunes aient plus d'accidents que les vieux, parce que c'est le cas. Non pas parce qu'ils ont des problèmes de lucidité ou de réflexe, mais parce qu'en fait, ils ont un problème d'instinct de conservation, qui prennent des risques inconsidérés sur la route, et qui n'ont rien à carrer de la vie des autres, puisque le seul truc qui les fait kiffer, c'est de vivre leur vie de jeune conducteur, je parle de jeunes garçons un petit peu foufou, on s'en bat les couilles. L'important, c'est le nombre d'accidents et de morts provoqués par ces jeunes conducteurs. Donc on s'en fout de ton argument fallacieux. Ce qui est important, c'est de savoir c'est qui conduit le plus mal. Les jeunes hommes au volant ou les vieux ? Bon, les statistiques sont catégoriques, c'est les jeunes. Donc, si on prend ça, eh ben, interdisons les jeunes. Donc cet argument, on ne peut pas, tu comprends ? Parce qu'ils sont turbocons, exactement. Et la visite médicale, elle va écarter que les vieux. Hein ? C'est pas la faute des jeunes, c'est la faute de la société, Samuel. C'est pas la faute des jeunes, c'est la faute de la société. Le fait que les jeunes conducteurs hommes conduisent comme des brêles, c'est la faute de la société ? Oh putain la vache, alors celle-là elle est bonne. Bah non, 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 faut juste qu'ils prennent conscience qu'ils roulent comme des cons, comme des connards. Bon, on continue ? Comment déresponsabiliser l'humanité ? C'est pas ma faute, hein ? C'est la faute de la société. Incroyable. Donc, la visite médicale, ça écarterait que les vieux. N'oublions pas qu'il y a des accidents causés par les vieux. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Dans une société vieillissante, marginaliser les plus âgés, voire les exclure, n'arrangerait pas les choses. Mieux vaudrait se demander comment rendre la vie de tout le monde plus agréable et plus sûre, notamment pour circuler. Et faire respecter les 30 km/h en ville, puisque c'est inscrit dans la loi. Multiplier pour les cyclistes les kilomètres de voies dédiées, protégées. Sanctuariser les trottoirs où les piétons, à Paris par exemple, doivent se garder des rapides et lourdes trottinettes. Multiplier les transports en commun. Tout cela serait la moindre des choses. On admet par exemple, comme une évidence, que les retraités s'installent loin du cœur des villes, précisément là où les transports en commun sont rares ou inexistants, rendant tout le monde dépendant des voitures individuelles. Où est la logique ? Peut-on à la fois déplorer la solitude des plus âgés et plaider pour la fin du permis qui réduira une peau de chagrin leur capacité d'activité sociale, amicale, sportive, culturelle et j'en passe ? Alors que la gravité des accidents est entre autres directement liée au poids des voitures, qui a augmenté en moyenne de 30% au cours des 30 dernières années, est-ce bien responsable, demande-t-elle ? Voilà. Agir sur ces causes dont je ne fais qu'en survoler quelques-unes demande une réflexion, hein, et une action de longue haleine, moins séduisante. Avis de vieux, mais arrêtez les faux jeunes du chat là. C'est vous les vieux. Les statistiques disent clairement que le problème sur la route sont les jeunes conducteurs hommes. Arrêtez. Espèce de faux jeune va. Arrêtez. Il ne s'agit pas de dire que le comportement de certains vieux conducteurs est problématique. C'est juste constater que si vous appliquez le critère de l'âge, on va interdire tous les jeunes hommes de conduire avant 40 ans. Soyez un tout petit peu cohérent. Vous n'êtes pas allé à l'école ou quoi ? Ça dormait au fond de la classe parce qu'il faisait froid. C'est quoi l'histoire ? C'est pas compliqué, bordel. C'est fou, ça. Jeune con. J'adore. Je ne comprends pourtant pas, dit Geneviève. Qu'on s'enferme dans une idée contredite par l'évidence. Si les automobilistes âgés au volant induisaient un sur-risque important, les assureurs ne se priveraient pas de leur imposer une surprime, comme ils le font pour les conducteurs novices. Il n'y a pas de surprime. C'est ce que je vous disais en intro tout à l'heure. Il n'y a pas de surprime. Il n'y a pas une prime plus chère pour les conducteurs âgés décidée par les assurances. Les assurances, ce n'est pas vos amis. Les assurances, c'est comme des banques. Ils sont là pour faire de l'argent. S'ils avaient un problème de suraccident avec les vieux, il y aurait des surprimes pour les vieux. Et il n'y a pas de surprime pour les vieux. Il n'y en a pas. La surprime, elle est pour les jeunes. Parce que statistiquement, c'est eux qui causent les accidents. Les gars. Mais oui. C'est juste... C'est... Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Mais arrêtez de dire que les vieux roulent peu. Les jeunes conducteurs, ils ne roulent pas plus. Ils ne roulent pas beaucoup plus. Hein, c'est pas des routiers non plus. Hein. Ils te font pas les 100 000 km par an, tes jeunes dont tu parles là. C'est pas vrai. Alors, si les capitalistes des assureurs mettent pas de surprime pour les vieux mais pour les jeunes, vous voyez bien que le problème c'est pas ça. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'aucun pays comparable au nôtre n'a imposé d'âge limite pour prendre le volant. Voilà. Ça n'existe pas cet âge limite. Il n'y a aucun pays. En tout cas, comparable à la France. Peut-être que dans des pays libéraux ou des dictatures, peut-être ça existe, je ne sais pas. Mais en tout cas, a priori, il n'y a pas d'article qui a déjà fait ça. Pas de pays qui a déjà fait ça. Quant aux contrôles médicaux, questionnaires de santé, permis à renouveler à intervalles réguliers, ils existent sous de multiples formes au-delà de nos frontières, sans qu'on ait démontré leur efficacité spécifique. Et puis, moi, je suis d'accord avec ça, il faut aussi faire confiance à l'humain. Voilà. Reste que parfois... vient avec l'âge un moment où des enfants, des amis, des voisins attentifs remarquent chez une personne une conduite devenue hasardeuse. Et là, c'est de votre responsabilité. Quand votre papy, quand votre mamie est vraiment totalement hors les clous au niveau de sa conduite, eh ben, c'est de votre responsabilité. Si la personne elle-même n'a pas arrêté de conduire, parce que souvent, les vieux, ils arrêtent de conduire d'eux-mêmes parce qu'à un moment, ils se trouvent trop dangereux, normalement, c'est votre responsabilité de fils, de cousin, de frère, que sais-je, à un moment, de parler avec la famille en disant « Bon, papy, là... Papy Samuel, faut plus qu'il conduise. » Donc, c'est aussi une responsabilité humaine, sociétale, familiale, de le faire, quoi. Et vous êtes beaucoup, vous serez beaucoup plus précis dans l'analyse de la capacité ou pas à conduire d'un proche aîné que n'importe quelle loi, n'importe quelle visite médicale. Donc un peu de responsabilité sociale aussi, quoi. Eh oui, eh oui. Samuel, il faut qu'on parle. Voilà, certains veulent déjà m'expliquer que je ne dois plus conduire. Tiens, exemple concret. Prenons mon exemple. Moi, par exemple, je conduis sûrement moins bien, techniquement parlant, que quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire, mes réflexes sont moins aiguisés, ma vision est sûrement moins bonne, que dire encore. Je pense que je suis un moins bon pilote que techniquement. Mais j'ai jamais d'accident. Alors que quand j'étais jeune, comme plein de jeunes hommes, j'ai été accident sur accident, en moto, en voiture, quoi. Un danger public, quoi. Parce que la bêtise, l'immaturité, plein de choses, quoi. Voilà. Et oui, à un moment, il y a l'expérience qui vient prendre le relais. Donc, je conduis techniquement beaucoup moins bien, mais je suis beaucoup moins dangereux sur la route. Donc, il faut l'intégrer, ça aussi. Il faut l'intégrer. Voilà, j'ai une meilleure lecture du jeu, voilà. Donc, reste que parfois vient l'âge ou un moment où des enfants, des amis, des voisins attentifs remarquent chez une personne une conduite devenue hasardeuse. La question se pose alors au cas par cas de la meilleure façon de l'amener à renoncer à prendre le volant. L'espérance de vie est si grande aujourd'hui que cette question est d'autant plus fréquente. En plus, notre société française est en train de vieillir. Donc, les jeunes qui essayent d'expliquer que ce n'est pas les jeunes qui font interdire de conduire, mais les vieux, dans quelques années, ce sera votre tour, les gars. Ce sera votre tour. Et ça va râler. Et vous allez râler. Les familles dans lesquelles on s'entend bien, où on est resté proche sentimentalement et géographiquement, trouveront les mots et la manière. Pour les autres, ce sera une difficulté de plus. Pour tous, c'est tout un mode de vie qui en sera bouleversé. L'éventualité de renoncer à conduire un jour devrait donc faire partie des questions à se poser tôt, dès qu'on voit approcher l'âge de la retraite. Moi, j'espère que j'aurai la présence d'esprit nécessaire de savoir arrêter de conduire le jour où je ne serai plus en capacité de conduire. Mon papa, il l'a fait. Mon papa, qui a eu jusqu'au dernier jour de sa vie 100% de ses capacités cognitives et intellectuelles, il était en pleine forme au niveau de la tête. Bon, mais il y a quelques années, il a dit « Moi, j'arrête de conduire. » Voilà. Alors qu'il était un danger pour personne. Mais il a dit « Franchement, je ne me sens plus de conduire. Je ne me sens plus les réflexes. » Alors j'espère que j'aurai ce réflexe-là. Sinon, c'est aux proches de faire ce travail. À moins que l'électronique... Autre espoir, ne viennent grâce à des voitures quasi autonomes protéger instinctivement toutes les générations. Les vieux, parce qu'ils ont plus de réflexes, et les jeunes, parce que, notamment chez les jeunes hommes, parce que les statistiques des jeunes conductrices femmes, désolé messieurs, elles sont bien meilleures, hein, les protègent contre leur irresponsabilité au volant. Depuis aujourd'hui même, les voitures neuves devront toutes être équipées de détecteurs de piétons et cyclistes avec freinage automatique, hein, sans aller jusqu'à la voiture autonome. Hein. Oui, ma puce. Attention. Mon épouse va apparaître dans l'angle de la caméra dans 3, 2. Profitez, c'est un moment historique, elle n'est jamais apparue. Elle a réussi à passer. Elle a réussi à passer, vous ne l'avez pas vue. En 5 ans, vous ne l'avez jamais vue. Ça se trouve, elle n'existe pas. Ça se trouve, je suis un mytho. Ah, elle repasse. Elle repasse, elle est chargée de serviettes de bain. Donc peut-être que vous verrez passer les serviettes. Toujours pas. Il n'y avait pas assez de serviettes. Désolé. Ça se trouve, il n'y a personne. Vous avez vu l'ombre ? C'est une ninja. Je vous aime. C'est une ninja. Voilà, sans aller jusqu'à l'IA, voiture autonome, bon, ben des détecteurs de piétons et cyclistes avec freinage automatique, ça pourrait sauver des vies, quoi. Hein ? J'aime beaucoup la conclusion de l'édito de cette femme. C'est précisément ce qui aurait permis à une vieille dame et à une toute jeune cycliste, la petite fille qu'on évoquait au début de l'article, à laquelle je dédie ces lignes. Donc Geneviève, c'est comment son nom de famille, Jorgensen, dédie cet article à cette jeune victime, de partager la route, de partager la vie. Voilà. Et de rester, ce sera mon dernier mot avant les vacances, résolument ensemble. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi je ne nie pas ici le danger que représentent certains vieux conducteurs. Je dis juste que le problème, il est plus compliqué à régler que par une simple interdiction ou une visite médicale, et que si on commence à se poser la question de l'âge, bah dans ce cas-là, il faut notamment se tourner vers le problème des jeunes conducteurs masculins. Ce qui a énervé certaines jeunes conducteurs masculins dans le chat. que la Makine a déjà ça sous sa voiture. Bah, tu vois que la Makine, c'est bon, tu peux vieillir, toi. Voilà, la tourte. Suite à un AVC en août dernier, alors que j'ai conservé la mobilité physique mais perdu quelques réflexes et concentration, je ne conduis plus, car perte de confiance, je suis pourtant pas très vieux. Ça s'appelle la responsabilité, bravo la tourte. Gracouille dit, ça c'est un discours de citadin, on ne peut pas demander aux personnes âgées de lâcher le permis quand elles habitent en campagne, où il faut faire plusieurs kilomètres pour aller faire des courses ou aller chez le médecin. C'est exactement ce que dit l'article, Gracouille, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ma grand-mère me dit jus de pomme, il y a 2-3 ans, elle a demandé à mon père de vendre sa voiture, elle ne voulait plus conduire. Il y a plein de personnes âgées qui s'arrêtent de conduire volontairement déjà. Les filles, elles font juste plein de pocs, faut le dire quand même. Faux exutoire. Hein, le fameux discours, c'est les gros cartons, c'est pour les mecs. Mais par contre, les femmes, ah, quel danger au volant, elles n'arrêtent pas de faire de la tôle froissée, elles ne savent pas faire un créneau. Faux. Même les statistiques des assurances disent que les petits accidents, les hommes sont surreprésentés. Ils ont tout faux, les garçons, sur la conduite. Mais ouais. Même ça, c'est faux. Hein, ah oui, mais elles font plein de petits POC. Même ça, c'est faux. Demandez aux stats, aux assurances. Même ça, c'est faux. C'est des stats. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rappelons-nous la tendance TikTok là sur. Où on demande à des hommes s'ils sont capables de poser un avion de ligne en cas de problème. Et la majorité des hommes qui répondent oui sans problème. Il y a un petit truc sur la confiance qui est un peu problématique chez certains garçons. Voilà. Madame Bruyante nous rappelle les chiffres. Les chiffres de la délégation interministérielle à la sécurité routière. Les hommes représentent 84% des auteurs présumés d'accidents mortels en 2024 et 89%. Des conducteurs alcoolisés impliqués dans les accidents mortels. 84 et 89%. Il y a CESCAP qui dit « Tu connais les stats du nombre de conducteurs en fonction du sexe ?» Bah tiens, on vient de les donner. Voilà. Ma femme est dans la sécurité routière, me dit Coucou Rose, dans les stages de récupération de points. Il y a tout le temps 90% d'hommes et 70% de jeunes. Allez m'expliquer les gars. J'aime ce petit débat. Alors on est parti sur un débat jeune-vieux et là c'est parti sur un débat homme-femme au volant. J'aime bien. Pas fait exprès, désolé, j'ai foutu le feu au chat, je suis désolé, je suis confus, je m'excuse. Je m'excuse auprès des jeunes hommes. Désolé. Mais à coup pas, mais non, pas du tout. Non, c'est bien, non, juste de prendre conscience. Moi aussi, j'étais un jeune con, hein, au volant. Et vous vous rendrez compte quand vous serez un vieux con, que vous étiez un jeune con. C'est normal. Bon, après, les explications scientifiques, là, je comprends rien. Ok, je passe. On ignore encore à quel moment précis de l'endormissement survient le moment Eureka, dit la chercheuse. Il varie probablement selon les modalités d'entrée dans le sommeil. Voilà. Une chose est sûre, une courte sieste augmente les chances de connaître ce genre de fulgurance. Voilà. Le mécanisme de survenue des moments Eureka n'est pas encore complètement compris. Neurobiologiste au Collège de France, Armel Rancillac, explique que tous les stades du sommeil ont une importance dans le traitement de l'information. Quand on dort, on repense à tous les événements de la journée. En commençant par les plus récents, dit-elle. Bah, c'est comme moi, mon boîtier d'acquisition, là. Samedi, j'ai passé plusieurs heures sur le PC, je ne trouvais pas. Je suis allé dormir. Et dimanche matin, j'ai trouvé la solution. Dormir en cours serait donc bénéfique. Bien sûr, bon tort. C'est ce que j'ai fait, moi, beaucoup. Énormément. Quand on dort, on repense à tous les événements de la journée, en commençant par les plus récents. Si on s'est heurté à une difficulté avant de s'assoupir, on la retraite dans une configuration cérébrale différente. L'activité du cortex préfrontal, qui joue un rôle important dans la logique, diminue en premier. D'autres régions peuvent alors interagir de façon différente, d'autres régions du cerveau, et trouver la solution en échappant à la rationalité qui s'impose à nous lorsqu'on est éveillé. Plus tu dors, plus t'es fort. Merci Nero. Oui, Camlink, le frigo, j'ai trouvé en dormant. Donc voilà, vous bloquez sur un truc, petite sieste. C'est déjà connu que les siestes sont bénéfiques pour à peu près tout. Me rappelle, Milo Mars, activité cérébrale, forme au travail, mais bien sûr, la sieste est très bon. Regardez ce glow. Regardez ce glow. Regardez cette lumière. Regardez ce visage. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la sieste. Hier, je me suis mis sur le canapé, là. Les fenêtres grandes ouvertes. Ici, je fais des siestes de fou, ici. Et mon amoureux s'était assoupi sur le canapé. Je suis allé, hop, canapé un peu à l'ombre, là. Et regardez ça. Eh oui, ce glow-là, c'est la sieste. Le S de Samuel, ça veut dire sieste. Les bébés font la sieste, c'est pour ça qu'ils ont un temps de pêche. Mais oui, mais bien sûr. Ah, il y a Pierrot qui est fâché. Pierrot. Là, on a un niveau de désinformation qui est légendaire. Légendaire, les gars. Je suis très déçu, je comprends mieux certains commentaires sur Sam. Oh, mon Pierrot, il est fâché. Oh, il est fâché. Ah, Pierrot dit, je bosse dans les essais cliniques depuis 14 ans, je connais ce genre d'article. Voilà. Ça dépend, je suis en phase 2 et 3, tous les... J'ai pas compris ça. Donc Pierrot, il est fâché. Pierrot. Pourtant, on lui a fait deux holas. Deux holas. Je suis un peu. Deux holas, c'est la première fois qu'un viewer de cette communauté a deux holas en cinq ans. Et Pierrot, il est en colère. Il est en colère parce qu'il avait dit que l'article c'était de la merde avant qu'on ait lu l'article. Alors que l'article, ça trouve, c'est de la merde. Mais il faut le dire après. C'est juste ça. Les limites scientifiques de cette étude, là, en plus, il y avait 90 volontaires, c'est que dalle, 90. Franchement, il y avait plein de trucs à dire sur cet article. Mais disons-le après ou pendant, mais pas avant, quoi. C'est juste ça, en fait. On est d'accord que 90 personnes, c'est vrai, pour un essai, c'est quand même pas beaucoup. Je suis pas scientifique, mais. Mais Sam, des études comme ça, on en a 10 par an. Oui, mais dis-le après l'article, au moins. Tu vois ? C'est fou, ça. C'est ce qu'on essaye un petit peu d'expliquer ici, c'est comment on les choses après avoir lu les choses. Pas pré-shot, quoi. Moi, je trouve ça un peu limité, là, 90 personnes. C'est même un peu flou, quoi. Voilà. Pas sûr que la sieste permette de débloquer aussi facilement que l'article semble dire des situations de complexes, quoi. Moi, ça me paraît... Je pense que ça fait du bien à la santé globalement, mais pas convaincu. Mais disons-le après, quoi. C'est une démarche intellectuelle, en fait. D'où la hola. Moi, je dors très peu, par exemple. Je suis quand même la preuve que le sommeil, c'est bon pour le cerveau et la santé. Regardez dans quel état je suis. Hein, moi, je dors très, très peu depuis très longtemps. Mais regardez dans quel état ça m'a mis. Hein. Rien ne va plus, quand même. Hein. Donc, dormez, les gars. Dormez, les gens. Dormez. J'en suis la preuve vivante. Ouais. Je vous rappelle que j'ai 22 ans. Regardez dans quel état je suis. Mais oui, écoutez votre corps, mais oui, bien sûr. Sauf au volant, oui. Et si vous voulez une preuve encore plus flagrante, revenez sur ces streams Valo. Oui, Dragon Wild a raison. C'est en moyenne.
Bon, ce matin, mais du coup,
il s'est traduit par une forte diminution du temps. On passe à un truc beaucoup plus léger. Qu'est-ce que c'est ? Emilien, c'est bon, là. Personne ne devrait s'énerver, là. Page 28, Emilien. Bon, voilà. Emilien, c'est fini. Emilien, c'est le grand champion. Excusez-moi, le débat se poursuit avec certains. Voilà, le grand champion des 12 coups de midi. Je crois que c'est le candidat français qui est resté le plus longtemps dans un jeu. Voilà. Et voilà. C'était tout. C'est juste ça, l'actu. Et j'avoue qu'on n'apprend pas grand-chose de plus dans cet article. Et à la fin, c'est Emilien qui perd. Le plus grand champion de l'histoire des jeux télé français, donc c'est ça. A chuté ce dimanche après 647 participations dans le programme Première Réaction. Bon. La chute du roi Emilien était attendue, elle a enfin eu lieu ce dimanche après 22 mois de présence quotidienne sur TF1 et 646 victoires empilées, le jeune homme a quitté les 12 coups de midi. Où il avait débarqué un beau jour de septembre 2023. Le plus grand champion de l'histoire des jeux télé a trébuché lors du coup fatal, manche chronométrée de l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. J'ai répondu à moins de questions en une minute que mon adversaire du jour, résume le Vendéen, jouant par téléphone après cette élimination intervenue lors d'un tournage en mai. Donc ça fait littéralement deux mois que qui sait. Il y a toujours un décalage entre les enregistrements et la diffusion, quoi. Ne comptez pas sur lui pour s'épancher sur son ressenti. Il n'y a pas de réaction à avoir, dit-il. On sait depuis le début qu'on finira par perdre. C'est la suite logique, comment-il du bout des lèvres. Relancer celui qui est parfois aussi généreux en interview qu'une porte de studio télé. Quoi ? Relancer celui qui est parfois aussi généreux en interview qu'une porte de studio télé. Ça tacle, là ? C'est qui signe cet article ? Ah oui, Benjamin Meff, d'accord. Waouh ! Donc là, le gars est un peu réservé, le mec est un peu timide sans doute. Ok. Waouh. Bon. C'est un peu... Oui, bon, pas très... Bon. Bon. On va pas commenter. Fini par lâcher qu'il n'y a pas eu de déception au moment de son départ. Je suis vraiment très content d'avoir pu jouer pendant aussi longtemps. C'est une page qui se tourne. Un peu bizarre ce commentaire. Pour se consoler, Emilien peut compter sur sa nouvelle fortune. Il repart avec plus de 2,5 millions d'euros, donc 1,7 million en cash, le reste en cadeaux divers et variés. Alors moi, ce qui m'a... Bon, moi, j'ai pas trouvé l'article fou, je peux vous le dire, surtout parce qu'en fait, l'essentiel de l'article, c'est sur la thune. Voilà. Alors que je pensais qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses à... Par exemple, je sais pas, moi, le mec, donc, on me dit que c'est le plus grand champion de l'histoire des jeux télé français, certains ont dit même du monde... Enfin, comment l'expliquer, quoi ? Comment il a acquis toutes ses connaissances ? Ah, vous savez pas l'article ? Comment il a acquis toutes ses conséquences ? Tu vois, comment il a ses connaissances ? Comment est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il est hypermnésique ? Est-ce qu'il a toujours eu cette capacité d'apprentissage ? Tu vois ? Enfin, je sais pas. Moi, c'est la question que je me pose sur ce garçon, quoi. Qu'en pensent ses proches ? Qu'en pensent ses anciens profs ? Tu vois ? Et là, en fait, c'est que de la thune. Voilà. Il repart avec plus de 2,5 millions d'euros de cash, dont 1,7 million en cash, le reste en cadeaux divers et variés, dans sa caverne d'Ali Baba, des voyages, des mixeurs, des aspirateurs, 23 voitures, il y a même un éclairage sur les voitures. Bon, 40% de l'article, c'est sur les voitures qu'il a gagnées. Ça va partir à la vente, prévient-il le nouveau Crésus du petit écran au sujet de cette impressionnante flotte automobile. Voilà. Bon. Il entend souffler, je vais profiter des voyages que j'ai eu la chance de gagner. Voilà. Quant à ses études d'histoire à Toulouse, abandonné pour participer au tournage francilien de l'émission, ce ne sera pas en septembre, plutôt l'année suivante. Anticipe celui qui se destine peut-être à devenir professeur, mais sans certitude. Avant de nous quitter, Émilien assure qu'il reviendra voir de temps en temps la sympathique équipe des 12 coups de midi avec qui il a passé une bonne partie des deux dernières années. Il continuera aussi de regarder le programme lorsqu'il ira chez ses grands-parents, de grands fans de l'émission, grâce à qui il a candidaté à la quotidienne de Jean-Luc Reichmann. Est-ce qu'il postulera à d'autres jeux télé dans un avenir proche ? Ce n'est pas l'objectif, mais je ferme aucune porte. Voilà. Et puis, il y a encore un autre article sur les voitures et les scooters qu'il a gagnés. En vrai, je trouve pas que c'est ce qui est le plus intéressant. Et toi, elle dit qu'il s'entraîne 10 heures par jour. Ouais, je suis pas surpris. Ouais. Je suis pas surpris. On me dit que l'interview d'Hugo Décrypte est mieux.
Bah ouais.
Bon, là, c'est pas fou. Il a un cerveau qui fonctionne super bien, c'est juste sympa à voir, me dit Vince. Et il n'est pas pédant, ni supérieur, il est juste bluffant. Pour l'avoir croisé sur le plateau de Question pour un champion, il est venu faire un petit coucou très discret à Étoile quand Étoile est passé à Question pour un champion. Il est venu en coulisses. Il était tellement discret que je suis passé 4 fois devant lui. Je pensais que c'était un stagiaire. Je suis pas très fort pour connaître les visages. Et donc, je suis passé 3 ou 4 fois à côté de lui. Je disais bonjour. Tiens, c'est un jeune qui est en observation et tout. Je suis vraiment à côté de tout, moi. Dormez, je vous en conjure, dormez. Et à un moment, Étoile vient me voir et me dit, bah, tiens, je te présente Émilien. Et là, je fais, ah putain, oui, d'accord. Okay. Il dit, bonjour, félicitations, hein, bravo. Hein. C'est con, le vieux, là. Voilà, donc je peux vous dire que c'est le mec le plus, oui, effectivement, le plus simple, nature et gentil de la vie, quoi. Bon, certains ont sûrement bien suivi son parcours. Il pourrait l'embaucher pour écrire des questions, sinon, bah non, on n'a plus besoin là. On va plus trop embaucher à Question pour un champion là. En tout cas, vous êtes plusieurs à me dire que l'interview d'Hugo Décrypte est très bonne. Ce qui ne me surprend pas. Moi, je n'ai pas envie de lire la vidéo d'Hugo Décrypte, parce que c'est son contenu. Par contre, je vous invite à aller la voir, ça lui fera des vues. Vous connaissez ma position sur ces sujets quand il y a des vidéos comme ça. On peut aller voir le début peut-être. Mais moi, je ne veux pas aller lire. Ça, c'est de l'acquisition de contenu. Mais je vous invite à aller la voir. On peut aller voir le début pour vous donner envie, par contre. C'est sur la chaîne de Hugo Décrypte, c'est ça ? Elles sont en plein de vues, non ? Alors, Hugo Décrypte, Actu du jour. Attends, il y a plusieurs chaînes, non ? Bon, bah, elle a 3,4 millions, celle-là. Ça doit être celle-là. C'est peut-être pas celle-là. Il est tellement énorme, Hugo. C'est peut-être pas celle-là. Grand format, merci. Voilà. 1,8 million.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
C'est ouf, hein.
Merci d'avoir.
C'est ouf. Hein. Alors, voilà ici. 48 minutes 35 d'interview.
Wix, une plateforme pour.
On aime les pubs ici. On aime les pubs ici. C'était une exclue hier après l'élimination. Bah bravo Hugo. Hop. On regarde le début.
Émilien qui détrône aujourd'hui Mathias. Émilien qui devient maître de midi.
Salut Émilien, tu vas bien ?
Salut, oui, ça va très bien. Je suis très content d'être là.
Et bah, ravi de te recevoir.
Ça se voit, c'est comme le mec le plus gentil du monde.
Moi aussi, vraiment trop content. On va échanger sur plein de choses ensemble. T'as 22 ans, t'es une légende vivante des jeux télévisés. Oh, pendant près d'un an et 9 mois, t'as régné sur l'émission des 12 coups de midi, amassant un total de 2,5 millions d'euros, un peu plus même, je pense. La cagnotte finale est un peu plus élevée. Une série qui s'est achevée ce 6 juillet 2025, après un parcours fantastique qui est historique. En France, historique même dans le monde, par un nombre de séries comme ça, de victoires consécutives. Aujourd'hui donc, on va commencer par revenir sur cette élimination évidemment qui est récente, mais j'ai aussi envie évidemment que tu reviennes sur ton parcours, que tu nous donnes aussi tes meilleurs conseils pour améliorer éventuellement ta mémoire ou sa culture, et que tu nous dévoiles aussi les coulisses de l'émission.
Voilà, ça c'est les bonnes questions. C'est ce que je vous disais, ce qui est intéressant avec ce garçon, c'est de savoir comment il a constitué cette culture, cette mémoire, comment il s'est entraîné. Voilà, bah, c'était ça la question qu'il fallait poser.
Mission, on terminera aussi avec un petit oui-non à la fin.
Parfait.
Mais voilà, gros programme et franchement, ravi de te recevoir. Donc merci.
Bon, deux goats. Alors, vous connaissez mon tech là-dessus. Allez voir cette vidéo. Hein, on va pas la... C'est le contenu du Go, c'est sur sa chaîne grand format. Il y a déjà combien de vues? 400 000 vues presque en 22 heures. Donc voilà, je vous mets même le lien dans le chat. C'est deux goats sur le même plateau. Boum. Boum. Hop. Le lien est en haut, les amis. Et oui, c'est pas interdit de React. Ah, je suis embêté avec ça. Une vidéo qui vient de sortir comme ça, c'est du travail. D'abord, c'est une exclusivité. C'est Hugo Decrypt qui a eu l'exclusivité de cette interview. C'est du travail. C'est de la préparation d'une interview. Faire un React sur un contenu et aussi frais que ça, c'est une forme... d'accaparement, je ne sais pas si on peut dire ça. Ah, salut les amis. Bon, en ce moment, tout est contre moi. Hein. Incroyable. Parce que le débat était intéressant tout à l'heure. J'ai une petite note à prendre. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Bon, je voulais revenir. De toute façon, on avait fait tous les articles que je voulais vous montrer. Hein. Hop, hop, je ferme le Mac pour vous dire au revoir. Ouais, pas quand même pour pas. Ah non, remarque, on n'a pas fait l'article sur Question pour un champion. Ah ben non, on va faire l'article de Question pour un champion. T'as raison. Ah si, t'as raison. Alors. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? On a été cut comme jamais, hein, brutalement, comme les premiers lives quand tout n'était pas carré, quoi. Alors, est-ce que c'est trop d'appareils à raclette branchés en même temps? Non. Est-ce qu'un crabe est entré dans le salon et a arraché le câble, le RJ45? Non. Est-ce que c'est le four? Ça aurait pu. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que je travaille la semaine? Non. Est-ce que j'ai été Théo? Non. Est-ce que j'étais ban de Twitch? Non. Est-ce que c'est l'abonnement électrique de la maison qui est insuffisante et Hélène a allumé le four? Et ça a tout fait sauter? Non. Est-ce que Étoile est venue arracher le câble? Non. Est-ce que c'est la clim trop fort? Non. Mais c'est un lien avec la clim. Est-ce qu'il y a un sèche-cheveux? Non. Un enfant qui a enlevé la prise? Non. Un coup d'Emilien? Non. L'eau de la piscine qui a éclaboussé? Non. C'est Thierry Ardisson? Ça aurait pu, mais non. Censure de Delphine E? Je ne sais pas de qui tu veux parler. Twitch, t'as passé un week-end only? Non. Un électricien qui a coupé le courant? Oui. Voilà. Bon, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les locataires de la maison d'avant, les locataires de la maison avant nous ont été un peu irresponsables. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait tourner la clim de la maison. À fond, genre fenêtre ouverte, quoi. Il y a des gens qui font ça. Ce ne sont pas des Français. nous sommes responsables, bien sûr. Donc, clim à fond pendant les vacances, fenêtre ouverte, peu importe. C'est ce qui est quand même surréaliste à notre époque, quoi. Après, on se dit, oui, mais alors, allez, on va demander de faire pipi dans la douche. Chacun faisait des petits efforts. Donc ces gens ont fait ça. Du coup, la clim a sauté dans quelques pièces, notamment dans les chambres des enfants. Et en fait, moi, je trouve que la clim, elle est notamment importante pour les plus fragiles. Et la clim, elle est surtout importante, pour la chambre des enfants. Donc les enfants, ils n'ont pas la clim. Donc du coup, il y a deux artisans qui sont venus, qui devaient venir aujourd'hui. Voilà. Et quand j'ai vu que tout a planté, là, c'est qu'en fait, j'ai perdu l'alimentation électrique de toute la machine. Pas du PC, parce que c'est un PC portable, il est sur batterie. Mais du coup, la live box, la box internet aussi a pété. Voilà. Et du coup, les gens sont venus réparer. Sauf que dans la réparation, au moins, ils ont fait sauter les plombs. Voilà, tout simplement. Voilà le pourquoi. Donc là, le temps que la box relance deux fois, parce qu'ils ont refait péter après. Voilà. Donc désolé pour cette coupure. Comment on dit, indépendante de ma volonté. Voilà. Bon, du coup, c'était pour vous dire au revoir. Mais aussi, après l'article sur Emilien. Voilà. Et puis le fait que Hugo Decrypt a priori fait une interview qui a l'air hyper sympa, que je vous avais mis, qui est toujours en haut là, dans le chat normalement. À quoi que non, parce que j'ai dû mettre un message comme quoi j'allais revenir. Quoi, il n'y a pas une alimentation électrique indépendante que pour toi au cas où? Ben non, je ne vais pas mettre un bloc électrogène pour la box internet, quoi. Voilà. Donc du coup, on va terminer vite fait, parce que ça avait l'air de déjeuner avec la famille, sur l'article Question pour un champion, qui est dans Libération. Il y a deux pages. Ok, ici, c'est dans Libé. Deux pages dans Libé. Bon, je pense que c'est une des dernières fois où on parlera de questions pour un champion ici, quoi. Un onduleur, il va me garder le courant combien de fois? Merci Modestoma. Merci Jocelyn 50. Merci Modestoma. Merci Léviatrifox. L'onduleur, il va me garder le courant combien de temps? L'onduleur, c'est pour les micro-coupures, non? Quand deux artisans font péter les plombs de la maison, l'onduleur, il peut me protéger? Ah bah ça a recoupé parce que j'ai plus de réponse. 15 minutes environ? Donc faut que je m'achète un onduleur pour ici? Pas sûr. Mais le problème, c'est que l'onduleur, je vais le mettre sur mon alimentation ici en bas. Donc, je vais sur la table de mixage, la caméra, le PC. Mais il ne protège pas toute la maison. Il protège juste quoi sur une prise électrique, on est d'accord. La box, elle est à l'étage. Je peux pas mettre tous les appareils électriques de la maison sur l'onduleur, on est d'accord. Hein, si c'est le disjoncteur qui saute, c'est mort. Ouais. Ah oui, ah oui, donc il me faut deux onduleurs. Il faudra mettre la box sur onduleur. Ouais. Bon, en tout cas, le matos a tenu, déjà, parce qu'un arrêt brutal comme ça, c'est jamais très très bon. Ok. Alors allons voir cet article dans Libération sur Question pour un champion. Voilà. C'est le seul média à qui j'ai parlé d'ailleurs. Libération sur le sujet. Parce que je ne voulais pas passer ma vie en interview sur Question pour un champion. Je ne voulais pas donner l'impression que je partais en croisade sur ce truc. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Question pour un champion. J'ai été extrêmement clair sur cette décision de France Télévisions d'arrêter le jeu, comment c'était une mauvaise décision pour le jeu, pour son public, pour plein de raisons, voilà. Mais que je n'allais pas faire la tournée des plateaux, comme d'autres auraient pu le faire, et des rédactions pour dire ça haut et fort. Je l'ai dit sur ma chaîne Twitch, j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux assez clairs. Après, il y a eu des gens qui sont mobilisés, il y a une pétition qui a beaucoup de signatures, il y a eu des politiques aussi qui sont mobilisés. Bon. Mais je n'allais pas passer ma vie sur les plateaux. Voilà. D'autant que je ne pense pas que France Télévisions puisse revenir sur cette décision. Et donc, je ne veux pas être celui dans l'histoire qui restera comme le gars qui a perdu l'animation d'une émission qu'il trouvait formidable. Bon, on passe le week-end, mais soyons pas dupes, hein, ça va s'arrêter bientôt. Toute ma vie, quoi. On va essayer de se projeter vers autre chose. Mais voilà, Libération fait deux pages ce matin. Je pense que c'est littéralement un des derniers articles que vous allez voir sur le sujet, la conférence de presse de France Télévisions. Et demain, ils vont faire les annonces. Après, ce sera hélas terminé. Je dis bien hélas, mais bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Tant pis quoi. Qu'est-ce que dit Libération maintenant ? Voilà. Est-ce que par exemple Libération, qui a mené une enquête sur le sujet, va trouver les explications, puisque ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est les explications sur le sujet. Question pour un champion : le jeu menacé, les fans bouleversés. La décision de supprimer les quotidiennes du show présenté par Samuel Etienne suscite l'incompréhension chez son million de téléspectateurs. Une pétition rassemblant plus de 44 000 signatures a été lancée pour demander le maintien de l'émission. Pour ceux qui n'ont pas l'info, France Télévisions a annoncé le passage de 7 jours sur 7 à 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche. Alors, lisons ce qu'il y a dans cet article. C'était le petit plaisir coupable de ma journée, livre un peu timidement Frédéric quand on l'interroge sur ce qu'on représente pour lui le jeu télévisé phare de France 3. Question pour un champion. QPUC pour les intimes, pas QPUC. Hein. Les gens qui disent QPUC, c'est les gens qui n'aiment pas le jeu. Comme les gens qui disent journaleux, par exemple, ou je sais pas quoi, moi, des mots comme ça. Quoi. Donc c'est QPUC. Framboise, bien vu. Frédéric, si l'émission n'a pas vraiment disparu, l'homme de 47 ans emploie déjà le passé depuis, donc c'est un téléspectateur, depuis que le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Cid Montgomez, a confirmé fin juin à l'AFP que le programme Jusque-là quotidien, depuis 37 ans, allait devenir hebdomadaire. Décision brutale. Juge ce monsieur qui est cadre en assurance à Paris, qui en aucun cas ne rate une émission depuis plus de 25 ans, notamment grâce au replay. Entre feuilletons Netflix et dinosaures du PAF, selon Frédéric, Question pour un champion arrive sur les écrans en 88 avec Julien Lepers aux manettes. Inspiré du jeu britannique Going for Gold, la version britannique et ses trois manches mythiques basées sur des questions de culture générale, 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face, cartonnent. 10 ans après, quelques 4 millions de personnes sont au rendez-vous chaque soir. Ça a été le pic de Question pour un champion. 98. Depuis 9 ans, je suis aux premières loges. Le jeu a le public le plus fidèle, raconte à Libération Samuel Etienne, le successeur de Julien Lepers, qui tient les rênes depuis 2016, de 18h10 à 19h50. Non. Non. De 18h10 à 18h50 à peu près. Donc, l'émission ne dure pas 1h45. Bon, c'est une petite coquille dans l'article. Mais effectivement, Libération est le seul journal à qui j'ai parlé, parce que je voulais pas donner 10 000 interviews sur le sujet. La blague, c'est que leurs petits-enfants ne les appellent pas à cette heure-là car ils savent qu'ils ne décrochent pas, relate-t-il. C'est vrai que souvent, j'ai des jeunes qui me disent « je n'appelle pas mes parents ou mes grands-parents à cette heure-là, ils ne décrochent pas ». Bientôt 50 000 signatures, me dit Asmode. Je spoil, ça ne changera rien. Vous pourriez avoir 1 million de signatures sur cette pétition que cette décision, ils ne vont pas revenir dessus. Quoi. J'espère... En disant ça, j'adorais me tromper. Hein. J'adorais me tromper. Voilà. D'après ce que je sais des gens qui ont pris cette décision, de pourquoi ils ont pris cette décision, de leur psychologie, j'espère que je vais me tromper, mais je vois pas du tout comment il pourrait revenir, par exemple, demain, lors de la conférence de presse de rentrée sur cette annonce. D'après les derniers chiffres publiés par Pure Media, Question pour un champion occupe 12% des parts de marché et occupe tout de même et se classe tout de même premier des audiences tous les jours jusqu'au début à 18h30 du feuilleton Ici tout commence sur TF1. Tous les jours, Question pour un champion est numéro 1 des audiences. Après, quand commence le feuilleton de TF1, on baisse un petit peu, mais on est top 1 global plusieurs jours par semaine depuis depuis toujours. 12% des parts de marché sur une chaîne qui fait en moyenne 9%, je crois. Donc, comme tout le monde l'a déjà démontré, l'audience n'a rien à voir, n'est pas une des raisons, n'est même pas une des raisons d'ailleurs invoquées par la direction. Mais ça, on l'a déjà expliqué, pour expliquer cet arrêt. Une énième émission débile à la place, c'est tout ce que ne veut pas Michel, retraité de 79 ans. La perte de ce jeu culturel dans son quotidien lui fait peur. L'habitant du Loiret craint qu'il arrive la même chose à Question pour un champion qu'à des chiffres et des lettres. D'abord déprogrammé la semaine en 2022, puis totalement supprimé des radars à la rentrée 2024. C'est effectivement ce qui risque d'arriver. C'est un nivellement de la culture par le bas, dit-il, déçu du service public. Le sentiment d'incompréhension est partagé jusqu'au banc de l'Assemblée, à l'initiative de l'élu Renaissance Denis Masséglia. 22 députés de la gauche, du centre et de la droite ont adressé mercredi une lettre ouverte et ouverte, commune et ouverte à la présidente de France Télévisions, dans laquelle ils déplorent une décision symboliquement lourde et culturellement regrettable. Alors moi, j'ai pas, ça a sûrement dû arriver, mais je n'ai pas souvenir d'élus de différents partis qui écrivent une lettre commune pour demander la non-disparition d'un programme. Voilà. Pour le coup, que la machine, oui, là, il y avait un vrai sujet. De son côté, Victor, 35 ans, enseignant en tech, a lancé dans la foulée une pétition, okay, déjà signée par plus de 44 000 personnes. On s'approche des 50 000, me dit quelqu'un dans le chat. Parmi eux, Carole, retraitée, membre du club Question pour un champion parisien depuis sa création en 99. Donc là, ils expliquent la mécanique des clubs. Je crois que Question pour un champion a 180 clubs. C'est le seul jeu en France qui a des clubs comme ça, 180 clubs. De gens qui se réunissent plusieurs fois par semaine pour jouer à ce jeu. Voilà. Certains viennent jouer après à Question pour un champion en plateau, mais c'est vrai que c'est le seul jeu en France qui a ça. Donc, il y a un passage sur comment les clubs fonctionnent, ce qui est mignon comme tout. Tu es terminé ? Recouper ? Ils veulent recouper là ? Bon, moi je vais cut le stream alors. Ok, moi je vais cut. Bon, les amis, je quitte le stream puisque les messieurs pour réparer la clim des enfants ont besoin de faire des tests, donc ils vont couper. Donc déjà, ils me préviennent, ce qui est plutôt très sympa par rapport à tout à l'heure. Vous irez lire l'article dans Libération. Mais bref, l'article dans Libé ne répond pas à cette question. Pourquoi Question pour un champion s'arrête ? Mais si vous faites point d'exclamation QPUC, on a consacré un live à ce sujet. Voilà. Et vous aurez toutes les infos. Voilà. Désolé, les amis. Bon, bah là, en ce moment, c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression que. Voilà, c'est Chirac qui disait les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Voilà. Et là, maintenant, on me censure même ici. Voilà, c'est des électriciens qui viennent me couper le jus. Voilà. Alors, je me suis démené comme un beau diable pour que ça fonctionne techniquement ce matin. Bon, on vient me. Voilà. On m'en veut. On va faire un petit raid quand même. Voilà, n'oubliez pas que Emilien lance sa chaîne Twitch à 17h si j'ai bien compris cet après-midi. On va aller voir qui est en live. Dommage, j'étais content d'être avec vous ce matin. On revient demain matin. J'espère que personne ne va nous embêter demain. Alors, qui est en live ? Je me dépêche parce que on va être coupé. Hein. Bah tiens, on va aller au Japon. Ça va nous aérer. Il y a l'ami Citron Violet. Un amoureux du Japon qui nous fait découvrir le Japon régulièrement en stream IRL, voilà, et qui est en live actuellement. Voilà, je me dépêche de faire le raid avant qu'on soit coupé. Voilà. Merci les amis, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Je vous retrouve demain matin si on ne censure pas. Bonne journée, à demain matin. Merci encore, des bisous. Ça part dans 5 secondes. Merci encore.